Europe Matin, le 5-7.
Sébastien Krebs.
Écoutez le monde changer.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Il est 4h57. C'est parti, le réveil sonne. Le 5-7 démarre. Nous sommes le mercredi 23 septembre. Je vous souhaite la bienvenue sur Europe 1. On est ensemble jusqu'à 7h avec toute l'équipe. Omblin Roche et Paul Lassen autour de moi. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Ça va bien?
Ouais, très bien.
Toujours.
On va beaucoup revenir ce matin sur cette info de la soirée d'hier soir. Que les futurs papas se réjouissent.
Ah bah comme ça.
Je suis sûr qu'il y en a qui nous écoutent avec le biberon de 4h57. Vous vous souvenez de 3 hommes et un couffin? La durée du congé paternité accordé lors d'une naissance va doubler, passer à 28 jours, dont une partie peut être obligatoire. Les détails à venir dans le journal de 5h dans quelques secondes. Une partie obligatoire, il faudra rester à la maison. Pas de projet là-dessus, Paul?
Pas encore, on sait jamais, qui sait. Je vous tiendrai informé, évidemment.
De quoi vous nous parlez ce matin?
Alors réunissez une actualité qui fait parler, la mutilation des chevaux, une star de la télé, Nagui, mélangez le tout et vous obtenez une fake news et une polémique sur les réseaux sociaux. Je vous raconte ça dans un peu moins d'une heure.
Les réseaux sociaux dans ce qu'ils ont de pire ce matin, tout à l'heure à 5h45. Omblin, qu'est-ce qu'on écoute?
Elle dénonce les inégalités sociales et raciales de l'Amérique des années 60 et 70. Des femmes noires américaines, des chanteuses qui, par le biais de la musique soul, luttent pour plus de justice et de reconnaissance. L'une d'elles s'appelle Marlena Shaw.
Marlena Shaw dans la partition d'Omblin tout à l'heure à 6h10. À tout à l'heure. On va regarder vers le futur ce matin, mais un futur qui se rapproche. Et si la voiture électrique coûtait le même prix ou quasiment qu'une voiture thermique? Et si cela arrivait demain? C'est un peu la promesse faite cette nuit par le patron de Tesla. L'avant-gardiste Elon Musk annonce des avancées sur les batteries et promet une voiture 100% électrique à $25,000 dans 3 ans. On va décrypter tout ça avec Laurent Ekay, expert des mobilités. Il nous rejoint tout à l'heure à 6h40. D'ici là, j'appelle un ophtalmo. Si vous voulez un rendez-vous, il faut patienter en moyenne 80 jours, presque 3 mois. Et si à l'avenir, vous pouviez aller directement chez l'opticien qui pourrait lui-même vous prescrire des lunettes, ça ferait gagner du temps. Mais les médecins sont vent debout contre cette idée. À 5h40, j'appelle donc Thierry Bourg, le président du syndicat des ophtalmologistes. Et puis, qui sera l'invité inattendu à 6h15? Le témoignage d'un cancre, mais un cancre devenu académicien. C'est la journée du refus de l'échec scolaire. Cet écrivain porte ce message d'espoir. Pourtant, lui, il a raté plusieurs fois son bac avant d'entrer à l'Académie française. Comme quoi, tout est possible. Voilà pour le programme ce matin. On jette d'abord un coup d'œil au temps. Bonjour Laurent Cabrol.
Eh bien bonjour Sébastien et bonjour à tous. Oui, c'est une journée en forme de répit. Avec ce matin, un ciel certes très nuageux, mais enfin pratiquement pas d'intempéries. Dans l'après-midi, nous aurons quelques orages quand même sur les côtes de la Manche, sur le Pays de la Loire, sur le Poitou-Charente. Et puis ailleurs, eh bien, ce sera un temps, disons, légèrement agité, beaucoup moins que cet an dernier. Mais enfin, ça n'est pas folichon quand même. Température maximale entre 21 et 27 degrés, ça commence à baisser. À Paris, on n'aura que 23, il y en avait 27 hier.
Merci Laurent, à tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Bon réveil à tous, la journée démarre et le premier journal de cette matinée vous est présenté par François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Il est 5h.
Soulager un petit peu la mère et jouer ton rôle de père à fond pour le bébé, ça peut être pas mal. Et 28 jours, c'est pas trop.
28 jours de congé paternité, changement majeur pour les futurs parents à partir de l'été prochain, annonce faite hier soir par l'Élysée. On le pressentait, ça se confirme en chiffres, le boom du paiement sans contact depuis le début de la crise sanitaire. On paye plus souvent avec cette méthode, sans faire son code, et pour des montants plus élevés. Et puis les insecticides tueurs d'abeilles, comme disent les apiculteurs, de retour à l'Assemblée nationale. Pour des dérogations, le gouvernement tente de mettre en avant des garde-fous.
À suivre, votre journal des sports et notre pressing du matin et puis les doigts dans l'assiette avec notre bande d'agriculteurs. Ce matin, nous allons dans le Morbihan chez notre ostréiculteur. Bienvenue, 5h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Selon l'Élysée, c'est un changement massif en termes d'évolution culturelle pour la place des pères auprès de l'enfant. Et cela permettra de changer le regard sur la société. 28 jours de congé paternité. La décision sera détaillée par Emmanuel Macron cet après-midi dans un centre de protection maternelle infantile dans l'Essonne.
4 semaines, donc, c'est 2 fois plus qu'aujourd'hui. Même si un rapport remis début septembre au gouvernement préconisait d'aller nettement plus loin, Victor Delande.
Oui, la commission des 1000 premiers jours préconisait 9 semaines, ce sera finalement 4. Actuellement, le congé paternité est de 14 jours. Il va donc passer à 28 jours et ce n'est pas tout. Une partie de ce congé sera désormais obligatoire. Car ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, un père sur trois ne prend pas son congé juste après la naissance. Notamment les personnes en contrat précaire qui ont peur d'être mal vues par leur employeur. Le gouvernement précisera dans les mois qui viennent le nombre de jours à prendre obligatoirement. Cette réforme sera inscrite dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale voté en fin d'année. Mais les premiers papas profiteront de cette mesure qu'à partir du 1er juillet 2021. Sachez enfin que cet allongement du congé paternité a un coût pour l'État, 500 millions d'euros de plus par an.
Victor Dolande, c'est une réforme extrêmement consensuelle, souligne encore l'exécutif, avec 80% de la population qui y est favorable.
Et notez déjà le tête-à-tête de Mathieu Béliard tout à l'heure à 7h40 avec Tristan Champion, créateur du blog Barbe à Papa et auteur du livre La Barbe et le Biberon. C'est tout à l'heure à 7h40.
Un nouveau cap symbolique franchi hier aux États-Unis avec 200 000 morts du Covid-19. En France, le taux de positivité des tests augmente encore, 6,1%, et la situation est très préoccupante en Guadeloupe avec 16 morts du Covid en une semaine. Si vous rechignez à porter le masque toute la journée au travail ou dans les transports, imaginez la difficulté supplémentaire que vivent les personnes sourdes ou malentendantes habituées à lire sur les lèvres.
Et c'est d'autant plus compliqué en milieu scolaire, mais des solutions apparaissent avec notamment des masques transparents. Exemple dans cette classe d'un IUT de Nantes où Charles Guyard a rencontré cet élève. Matisse.
C'était pas facile de suivre le cours, surtout les mots nouveaux, je n'arrivais pas à les comprendre.
C'était en juin, lorsqu'après le confinement, Matisse a retrouvé le lycée pour quelques jours et ses professeurs, évidemment masqués. Un vrai problème pour le jeune homme qui souffre de déficience auditive.
Je compense énormément avec la lecture labiale, donc je perds à peu près la moitié de ce qui est dit.
Depuis sa rentrée à l'IUT de Nantes, plus de problèmes. Il faut dire que dès son inscription sur Parcoursup, le nouveau bachelier avait signalé son problème d'audition. L'établissement s'était alors chargé du reste, comme l'explique Dominique Évrault, enseignant en génie thermique.
À partir de mi-juin, on était en liaison avec la mission handicap. On a fait la commande de masques début juillet et on les a reçus fin août.
Ce sens de l'anticipation a donc permis à Matisse de vivre une rentrée sereine. Mais pas seulement lui finalement, puisque ses camarades aussi en profitent comme Étienne.
C'est plus agréable, ouais. Je pense qu'on a besoin de voir le visage du professeur quand il explique quelque chose, des réactions. Et... J'ai l'impression qu'on entend mieux sur les masques transparents parce que la visière n'est pas collée à la bouche.
Reste maintenant à savoir s'il faudra aussi équiper le maître de stage de Matisse lorsque celui-ci se rendra en entreprise au second semestre, à moins que d'ici là la situation sanitaire ne s'améliore et permet à tous de retrouver le vrai sourire. Nantes, Charles Guyard, Europe 1.
Le Covid-19 qui a changé notre accoutrement mais aussi d'autres aspects de la vie quotidienne. Prenez par exemple la façon dont que nous avons de faire nos courses. Depuis le confinement et du fait des mesures sanitaires, le paiement sans contact par carte bancaire est en plein boom. Désormais, un paiement par carte sur trois en magasin. Les usagers rencontrés par Clément Le Saffre valident le principe à 100%.
Il y a moins de possibilités de se contaminer avec le coronavirus. C'est comme ça, on garde la distance, on se protège.
Comme Daniel, nombreux sont ceux qui ont découvert le sans-contact pendant ou après le confinement, un moyen de paiement plus hygiénique puisqu'il évite de taper son code sur le clavier. Et avec le relèvement du plafond de 30 à 50 euros, le sans-contact s'est adapté aux courses du quotidien. Eric aussi a pris le pli.
On gagne du temps, je pense que pour les commerçants aussi, ils gagnent du temps parce que ça évite les gens qui cherchent leur monnaie, leur moyen de paiement, et puis après l'attente du réponse du terminal quand c'est une carte bleue avec un code.
Résultat, le nombre de paiements sans-contact a augmenté de 80% en août par rapport à la même période l'an dernier. Pour Julien Clodon, responsable des paiements monétiques à la Société Générale, le sans-contact est devenu une habitude.
Il y a un paiement sur deux qui était réalisé en sans-contact à partir de tout début juin. Les quelques personnes qui avaient désactivé le sans-contact, il y en a beaucoup qui ont contacté leur conseiller pour réactiver le sans-contact. Et on a vu la même chose sur le paiement mobile. Depuis le déconfinement, il y a une croissance tous les mois de plus de 20%.
Et l'augmentation nette des paiements sans-contact a aussi permis de lever un doute sur le risque de fraude. La probabilité est de 0,02%, à peine plus que les paiements par carte traditionnelle.
Le débat a fait rage tout cet été entre les betteraviers et les écologistes, avec au milieu le gouvernement comme arbitre. Les néonicotinoïdes, ces produits très néfastes pour les abeilles, interdits depuis 2018, vont avoir leur dérogation. Le projet de loi passe en commission des affaires économiques cet après-midi à l'Assemblée nationale.
La filière betteravière a donné des gages hier en présentant une série d'engagements qui doivent permettre d'accélérer la transition. Mais les députés écologistes et les associations sont vent debout.
Oui, du coup, la majorité majorité est d'ailleurs assez gênée. Alors, Virginie Salmen, comment le gouvernement essaie de faire passer cette mesure ?
Eh bien d'abord, en montrant patte blanche. Producteurs de betteraves et chercheurs de l'INRA ont présenté hier un plan. Ils s'engagent notamment à diminuer de 25% l'usage de graines enrobées de néonicotinoïdes. Concrètement, ça veut dire ne semer qu'une graine sur quatre qui contient du produit et le reste sans insecticides. Mais ces promesses sont loin de convaincre les ONG et les premiers intéressés, les apiculteurs, qui comptent faire un happening avec 577 photos d'abeilles grand format ce matin devant l'Assemblée. Loïc Leray, vice-président du principal syndicat d'apiculteurs.
On se fiche de nous depuis 25 ans. C'est toujours le pot de terre contre le pot de fer. Et on voit très bien aujourd'hui que le lobbying et puis le puissant syndicat national, qui est la FNSEA, sait encore plier les politiques au détriment de la logique. Et ça, c'est scandaleux. Pour nous, vouloir faire ce forcing, même sur 3 ou 4 années, les dégâts vont être encore considérables en matière de rémanence dans le sol.
Autre façon de rassurer, le projet de loi devrait subir deux modifications importantes. L'assurance que les dérogations concerneront uniquement les betteraves et pas les autres cultures via un amendement. Et la création d'un conseil de surveillance d'une vingtaine de membres, c'est une première. Ils iront dans les champs tous les 3 mois contrôler que les agriculteurs mettent bien en œuvre leurs promesses.
Virginie Salmen, spécialiste environnement d'Europe 1.
Il est 5h08, c'est un sujet qui déchire les Européens depuis plus de 5 ans. 2 semaines après l'incendie qui a détruit le camp de migrants de Moria sur l'île de Lesbos en Grèce, Bruxelles va présenter une refonte du système européen d'asile et de migration.
Isabelle Horry, la Commission européenne veut remplacer le règlement de Dublin qui prévoit que les demandes d'asile soient examinées dans le pays où la personne pose le pied en premier.
Oui, mais ce principe, lui, devrait survivre. Le problème de Dublin, c'est surtout que le texte date d'avant la crise migratoire de 2015 et qu'il n'a pas anticipé le cas d'un afflux de migrants. Rien n'est prévu, d'où les tensions fortes depuis 5 ans entre la Grèce et l'Italie d'une part et le reste de l'Union de l'autre. C'est ça que la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, veut changer.
Nous allons abolir le règlement de Dublin. Nous allons le remplacer par un nouveau système européen de gouvernance de la migration. Il y aura des structures communes pour l'asile et le retour, et il y aura un nouveau mécanisme fort de solidarité.
Bruxelles veut que tous contribuent à l'effort en cas d'urgence, soit en prenant une partie des demandeurs d'asile, soit, c'est nouveau, en prenant en charge l'expulsion des déboutés de l'asile vers leur pays d'origine. Ça devrait plaire à la Hongrie ou à la Slovaquie qui refusent les réfugiés. En contrepartie, les pays de premier accueil, eux, enregistreraient tous les migrants, avec le soutien des agences européennes, et il ferait un premier tri sur place. La Commission veut croire que ce qu'elle appelle le pacte migratoire va enfin mettre d'accord les 27.
Isabelle Horry, et à propos de migration, hier, 88 personnes ont été secourues dans le détroit du Pas-de-Calais alors qu'elles tentaient de rallier l'Angleterre lors de 5 sauvetages distincts, dont 3 personnes qui se trouvaient dans un kayak à 2h30 du matin.
Aux États-Unis, la dépouille de Ruth Bader Ginsburg sera exposée aujourd'hui et demain à la Cour suprême, l'institution dont elle était l'une des 9 juges.
Elle sera inhumée ensuite dans l'intimité la semaine prochaine au cimetière d'Arlington, près de Washington. D'ici là, samedi, Donald Trump aura annoncé le nom de sa candidate pour le poste vacant. Le cinéma, avec la sortie aujourd'hui d'un film au thème plutôt lourd, mais cela fait partie de l'actualité, le suicide assisté. Ce long métrage, c'est Blackbird, porté notamment par Susan Sarandon et Kate Winslet, réalisé par Roger Mitchell, à qui l'on doit notamment Coup de foudre à Notting Hill. Mathieu Charrier.
Blackbird traite d'un sujet lourd mais sans être plombant. C'est la force de ce film lumineux. L'histoire de Lily, c'est Suzanne Sarandon, condamnée par une maladie dégénérative et qui décide de réunir un dernier week-end toute sa famille et sa meilleure amie avant de mettre fin à ses jours. Alors tout le monde est au courant.
Est-ce qu'on peut essayer d'avoir un comportement aussi normal que possible ?
Et chacun profite à sa manière de ces ultimes moments ensemble. Il y a des règlements de compte, des rires aussi.
Anna, Chris, vous dormez, je vais bientôt mourir, vous vous joignez à nous.
Mais ce qui frappe, c'est surtout l'amour qui unit cette famille dans ce moment si particulier, souligne Kate Winslet, qui joue l'une des 2 filles de Lily.
It's so human.
Ce n'est pas triste du tout, c'est humain. Quand vous côtoyez la mort, vous êtes à l'extrême limite de vos émotions. Et ça déclenche des choses extrêmes en vous, de la tristesse, des rires, tout est très intense.
Depuis qu'on a choisi une date, j'ai arrêté de penser à la mort et j'ai concentré toute mon énergie sur la vie.
Bien sûr, le film est engagé en faveur du suicide assisté, car au fil des minutes, on voit le corps de Lily lâché et on comprend cette décision de mettre fin à ses jours. Mais le débat existe à l'écran. On n'est pas non plus dans le mélodrame suintant les bons sentiments, mais dans un huis clos bouleversant, une célébration de la vie bourrée d'amour et d'humour.
Mathieu Charrier pour Europe 1.
C'est à voir donc au cinéma, le journal signé François Geffrier, le prochain à 5h30.
Retrouvez le journal des sports avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes.
Bonjour Jérôme Lacroix.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Votre journal des sports à 5h11 avec à la une la défense de Nairo Quintana.
J'ai été pendant toute ma vie sportive un coureur propre, communiqué cette nuit du cycliste colombien alors que son équipe Arkea Samsic est visée par une enquête judiciaire pour des soupçons de dopage sur le Tour de France. Un médecin et un kiné sont toujours en garde à vue. Cette formation bretonne alignée des coureurs hier sur la course normande Paris-Camembert. Personne n'a souhaité réagir, mais on parle beaucoup de l'affaire dans le peloton. Paul Ourselin, coureur de l'équipe Total Direct Energy.
Moi, j'ai plein d'amis dans l'équipe Arkea qui, je sais, font leur boulot très sereinement, et c'est peut-être le cas de tout le monde. Donc voilà, pas de conclusion hâtive. Voilà, nous, on n'y pense pas sur le vélo, on fait notre course. Voilà, faut toujours rappeler qu'il y a la présomption d'innocence. Pour l'instant, on ne sait pas, donc on va attendre que l'enquête se fasse et puis on verra par la suite.
Le cycliste Paul Ourselin au micro européen de Cyril de la Morinerie.
Autre affaire qui agite cette fois le monde du rugby, Bernard Laporte est toujours en garde à vue.
Le président de la Fédération française entendu dans les locaux parisiens de la brigade de répression de la délinquance économique, comme l'homme d'affaires Moed Altrad et trois autres personnalités du rugby français, notamment Claude Haché, patron de l'organisation du Mondial 2023 en France. C'est une enquête du parquet national financier pour des soupçons de favoritisme de Bernard Laporte envers Moed Altrad, le principal contributeur financier de la fédération. Bernard Laporte dénonce une tentative de déstabilisation. Il est candidat pour un nouveau mandat à la tête de la fédération et le scrutin est dans à peine 10 jours. Le foot et Paris Saint-Germain-Marseille jouent décidément les prolongations. Neymar affirme qu'un joueur marseillais lui a asséné des injures racistes pendant cette rencontre le 13 septembre. Et ce matin, Julien Froment, c'est Neymar lui-même qui se trouve accusé à son tour de racisme, accusation venue de Marseille.
Neymar n'a vraisemblablement pas appliqué l'une des règles d'or « ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse ». Selon l'agence France Presse, l'Olympique de Marseille disposerait en effet d'images sur lesquelles le Brésilien aurait tenu des propos racistes à l'encontre du défenseur japonais Hiroki Sakai. Des injures proférées à deux reprises, affirme une source proche de l'OM à l'AFP. Si tel était le cas, Neymar, qui aurait aussi lancé des insultes homophobes contre Alvaro González, risquerait la même sanction que le défenseur marseillais, à savoir au maximum 10 matchs de suspension. Selon le barème prévu à cet effet par le règlement de la LFP, une bataille médiatique qui dure depuis maintenant 10 jours. Chaque camp tente de défendre son joueur en apportant de nouveaux éléments à un dossier de plus en plus lourd. Dossier toujours en instruction du côté de la commission de discipline de la Ligue.
Et toujours lors de ce sulfureux PSG-OM, le joueur du Paris Saint-Germain, Angel Di Maria, est soupçonné d'avoir adressé un crachat à un joueur marseillais. L'Argentin est convoqué ce soir par la commission de discipline. Il encourt jusqu'à 6 matchs de suspension.
Le chiffre du jour.
82, elle a marqué 82 buts en équipe de France de foot. L'attaquante Eugénie Le Sommaire, désormais meilleure buteuse de l'histoire des Bleus. Elle dépasse le record de Marinette Pichon qui tenait depuis 14 ans. Le Sommaire a marqué un doublé hier lors de la facile victoire française 7-0 en Macédoine du Nord. Match de qualification pour l'Euro 2022.
Voilà une information que je préfère à côté des insultes et des crachats du foot masculin au PSG-OM.
En ce moment, c'est pas terrible.
Le journal des sports signé Jérôme Lacroix.
C'était le journal des sports. Toute l'actu pour bien parier est sur Europe 1 avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
5h15, les courses à présent avec le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Sébastien. Il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Lisieux. Et mon pari gagnant sera le 801 Finger de Rodney. Avec à peine 113 000 euros de gains, c'est de loin le moins riche de cette épreuve au trot monté, mais certainement pas le moins doué. De par les conditions de course, il aura l'avantage de s'élancer avec une avance de 25 et 50 mètres face à certains de ses adversaires. Et s'il consent à trotter d'un bout à l'autre du parcours, je suis quasiment certain qu'il ne sera pas rejoint. Notez bien, pour cet après-midi à Lisieux, réunion 1 dans la 8e course, le numéro 1, Finger de Rodney.
C'est noté Thierry Léger, on vous retrouve dans 20 minutes pour le quintet, à tout à l'heure. Europe 1. 5h15, l'heure d'ouvrir notre pressing du matin avec Paul Lassen et Omblin Roche. Omblin, une histoire digne d'un roman d'espionnage.
Exactement,
ce matin.
Exactement, l'histoire d'un homme né en Chine, d'origine tibétaine, naturalisé américain, ancien Marines, devenu policier à New York. L'histoire d'un espion chinois démasqué cette semaine.
Voilà, c'est un peu le bureau des légendes en version américaine. Les trois histoires que nous avons repérées dans la presse, c'est dans un instant sur Europe 1. A tout de suite.
Europe 1, Émilie Mazoyer.
Indochine, 40 ans que ça dure, 40 ans que c'est bon.
Salut, c'est Indochine. On se retrouve sur Europe 1.
Juste avant la mise en vente des places du Central Tour, tournée des stades qui célébrera leurs 40 ans de carrière, Indochine débarque sur Europe 1 dans musique, du live, des confidences.
Les gens veulent aussi écouter le nouvel album d'Indochine.
Pendant 2 heures en direct et en public, Indochine sera à vous et rien qu'à vous. Viens là,
viens là. Musique spéciale Indochine. Viens,
viens. Rendez-vous demain, dès 20h, sur Europe 1.
Ce vendredi, méga jackpot Euromillion de 130 millions d'euros minimum. Quel millionnaire serez-vous ?
FDJ.
Montant à partager rang 1 et plafonné à 200 millions d'euros, voire règlement. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Europe 1. Sébastien Krebs.
Il est 5h17 sur Europe 1. Le congé paternité va doubler pour atteindre 28 jours, dont une partie sera obligatoire. La réforme s'appliquera dès l'été prochain et coûtera 500 millions d'euros supplémentaires à la sécurité sociale. 30% de doses supplémentaires de vaccins contre la grippe saisonnière ont été commandées, annonce le ministère de la Santé. La vaccination commencera d'habitude à la mi-octobre. Et puis le constructeur américain Tesla veut diviser par deux le coût de ses batteries pour proposer un véhicule électrique à 25 000 $ d'ici 3 ans, soit 10 000 de moins que son modèle le moins cher aujourd'hui.
Europe 1.
C'est parti pour le pressing du jour avec Combline Roche et Paul Lassène. D'abord un coup d'œil aux unes des journaux ce matin qui s'intéressent à la question de l'immigration. On en parlait dans le journal avec deux visions. Les Européens veulent changer les règles, c'est le titre du Figaro. Bruxelles va proposer aujourd'hui un nouveau système pour mieux répartir, entre guillemets, le fardeau. C'est le terme utilisé par le Figaro, le fardeau entre les pays européens. Et puis de l'autre côté, le journal Libération dénonce à la une l'Europe qui s'enfonce dans la honte sur le droit d'asile. Asile et un continent qui serait transformé en forteresse. Autre sujet, on en parlait hier, la polémique autour des tenues à l'école. C'est quoi une tenue correcte républicaine, se demande le courrier Picard. Et puis on regarde vers le futur dans la presse. Les mobilités passent au vert, c'est la une de l'Est républicain. La montagne s'intéresse à la 5G. À quoi ça sert ? Faut-il s'en réjouir ou la craindre ? Se demande la République du Centre. Enfin, l'affaire qui secoue le rugby français. Bernard Laporte, le président de la fédération, placé en garde à vue pour des soupçons de favoritisme. Avec l'homme d'affaires Mohamed Altrad, le propriétaire du club de Montpellier. Tempête sur le rugby français, c'est le titre de la Dépêche du Midi. Et voici maintenant les trois histoires qui nous ont interpellés ce matin. Omblin, une histoire donc d'espionnage.
Je vous présente Baimadji Angwang. Il est policier à New York au sein d'un commissariat du Queens, né en Chine. Il est arrivé aux États-Unis avec au départ un visa d'échange culturel. Il a ensuite demandé l'asile politique pour fuir, disait-il, la répression de Pékin, affirmant avoir été emprisonné et torturé en raison de ses origines tibétaines. Baimadji Angwang devient un modèle d'intégration naturalisé américain. Il sert son pays d'accueil dans le corps d'élite des Marines, puis il réussit le concours d'entrée dans la police. Mais voilà, Baimadji Angwang ne serait pas celui qu'il dit être. Le Figaro raconte qu'il a été arrêté en début de semaine, inculpé pour espionnage. L'emprisonnement et les tortures étaient fausses. Il se trouve que ses deux parents sont membres du Parti communiste chinois. Selon l'acte d'accusation, piloté par des membres du consulat de Chine à New York, il aurait eu ses premiers contacts dès 2014, avant de devenir policier. À partir de 2018, il aurait récolté des informations sur les activités de la communauté tibétaine et identifié des sources potentielles de renseignements. Voilà pour les recrutements. Le policier zélé aurait même permis à des membres du consulat chinois d'être invités à des événements mondains organisés par la police de New York. Ouais, il était plutôt ambitieux, ce Baimadji Angwang. Placé en détention provisoire sans libération possible, il encourt 55 ans de réclusion. Une histoire digne d'un roman d'espionnage à lire dans le Figaro. Il a gagné aussi pas mal d'argent en passant.
Ouais. Bah, voilà, il tenait sa légende, une légende parfaite. Policier à New York, ça lui donnait pas mal d'accès à plusieurs dossiers. Moi, je voulais vous parler d'un texte, d'une tribune que vous retrouverez un peu partout aujourd'hui dans vos journaux et aussi sur les sites internet d'information et notamment sur Europe1.fr. Tribune signée par tous les grands médias français dont Europe 1, et c'est suffisamment rare pour être souligné. Ça n'est même jamais arrivé que tous les médias décident ensemble de s'adresser aux Français. Alors si nous le faisons, dit ce texte, c'est parce qu'il nous a paru crucial de vous alerter sur l'une des valeurs les plus fondamentales, notre liberté d'expression. Aujourd'hui, en 2020, n'importe qui peut être mené assez de morts sur les réseaux sociaux parce qu'il donne son opinion. Des médias sont ciblés par les organisations terroristes, des États font pression sur les journalistes Et on le sait, on est en plein dans le procès Charlie. Des dessinateurs ont été exécutés pour avoir dessiné librement. Ce texte rappelle la Déclaration des droits de l'homme. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions et dénonce des idéologies totalitaires nouvelles qui menacent comme jamais, hein, je cite, depuis 75 ans, cette liberté. Ce texte rappelle que les lois françaises offrent un cadre qui garantit le droit de s'exprimer, le droit aussi de critiquer les opinions des autres. Rappelle aussi que le délit de blasphème n'existe pas en France. Et cette tribune se conclut par un appel aux citoyens, aux élus locaux, aux politiques, aux journalistes, aux militants de tous bords. Appel à réunir leurs forces, à faire bloc, à faire rempart pour chasser la peur dans cette période plus que jamais incertaine. Défendons la liberté, c'est un appel lancé et publié ce matin sur des pages entières hein, par plusieurs dizaines de médias français et dans tous les journaux, hein, que ce soit la presse nationale ou la presse régionale. Voilà, ça méritait d'être dit. Oui. Paul, la dernière histoire du jour.
Alors, je suis tombé sur une petite annonce cette nuit relayée par plusieurs articles de presse. Vous aimez voyager ? Vous aimez bien manger ? Eh bien, si vous avez moins de 21 ans, cette annonce pourrait bien vous intéresser. Jugez plutôt. Parcourir le monde et cuisiner dans les plus beaux paysages de la planète avec pour allié le chef britannique Gordon Ramsay, rien que ça. Alors, pour ceux qui ne le connaîtraient pas,
c'est lui qui sauve les restaurants.
Voilà, il a des restaurants à travers le monde et il a une émission, Cauchemar en cuisine, voilà, où il vient en aide à des restaurateurs en les pourrissant littéralement. Et c'est justement pour un nouveau show télévisé qu'il passe cette annonce, un nouveau show qu'il prépare actuellement. Alors, le chef Ramsay est donc à la recherche de jeunes voyageurs fans de cuisine, pas forcément professionnels, qui ont entre 16 et 21 ans et qui accepteraient de le suivre à travers le monde pour explorer de nouveaux horizons gastronomiques. Bon, a priori, ça fait rêver. Voilà. Lors de votre candidature...
Faut qu'il soit de bonne humeur, mais...
Oui, ça, c'est pas gagné.
On n'est pas là pour se faire engronder.
Voilà, on n'est pas là pour se faire engronder. Vous devez préciser vos aptitudes en cuisine, vos voyages passés et là, petit piège, vos phobies. Donc, il peut vous arriver des petites bricoles. Alors, si vous nous écoutez ce matin, que vous êtes bilingue parce qu'il faut parler anglais, rendez-vous sur youngadventurecasting.com.
Voilà, Gordon Ramsay qui était bien pire que la version française de Cauchemar en cuisine avec Philippe Etchebest. Lui, il hurlait littéralement sur les...
Oui, il est même failli en venir aux mains parfois.
Dans les cuisines. Allez, rideau sur ce pressing du jour. Merci à tous les deux.
Sébastien Krebs vous informe sur Europe 1.
5h23, direction... le département du Morbihan à présent. Pour les doigts dans l'assiette, nous sommes chez notre ostréoculteur. Bonjour Renan Henry.
Bonjour.
Comment allez-vous ce matin?
Bah, très bien, et vous?
Et comment... Mais très bien, merci beaucoup. Comment vont vos huîtres, bon, surtout?
Ça va. Là, on finit la... On est sur la fin de la grande marée, là. Et on a très bon résultat. La pousse a été très bonne cette année. Là, l'huître a bien grandi correctement et une très belle qualité, donc on est très content.
Bah super, vous êtes à la fois dans le Morbihan et aussi dans la baie du Mont-Saint-Michel. Pour rappel, vous vouliez porter un message ce matin. Vous nous dites que l'huître finalement est précieuse en mer parce que c'est une sorte de sentinelle.
Ah oui, c'est une sentinelle, par rapport à la qualité de l'eau, bien sûr. Que ce soit physico-chimique ou bactériologique, l'huître est la sentinelle des scientifiques par rapport à tous ces éléments-là. Bactériologique, s'il y a un problème vraiment sanitaire pour la consommation, physico-chimique par rapport à tout ce qui est métaux lourds et autres. Et c'est vrai que les scientifiques s'en servent énormément. Et sans les huîtres sur notre littoral, je pense que la qualité de l'eau elle serait plus que pitoyable parce qu'en fait ça oblige à des contrôles et les huîtres sont les produits alimentaires peut-être les plus contrôlés.
Ouais.
Par rapport à ça, c'est très très suivi et on découvre énormément de choses. Par
c'est-à-dire
exemple,
en étudiant les huîtres, on en apprend sur la qualité de l'eau, la qualité de l'eau de mer.
Pas tout à fait. C'est grâce à ça si on a une qualité de l'eau aussi irréprochable. Parce que justement, par ces multiples contrôles, ça oblige les autorités ou tout un tas de personnes à faire très attention, à respecter notre environnement. L'huître, par exemple, c'est le produit qui contient le plus de zinc. Et le zinc est très important pour la santé humaine. Voilà, c'est des choses comme ça. Et après, on va découvrir dans des secteurs, par exemple, il y a trop de ceci ou trop de cela. Ouais. Là, par contre, c'est moins bon. Donc, ça oblige les gens à faire très attention, à respecter notre environnement.
Vous-même, vous êtes très souvent contrôlé sur votre exploitation ?
Ah ben c'est permanent. C'est permanent, déjà parce que en plus, je me suis rajouté des contraintes supplémentaires. Je suis le premier ostréiculteur breton certifié bio. Donc, que ce soit physico-chimique ou bactériologique, mes produits doivent être irréprochables. Donc, tous les zones ostréicoles sont contrôlées et chacun peut se rajouter. Et on fait, en plus, chaque ostréiculteur fait ses propres autocontrôles pour vérifier si les contrôles du milieu, hein, faits par les autorités, sont bons ou pas.
Et ben voilà, on peut manger des huîtres sans crainte. Alors.
Et c'est bon pour la santé.
Et c'est bon pour la santé. Merci beaucoup, Renan Henry. À très vite. Dans les doigts, dans l'assiette. À bientôt. Et bonne journée du côté du Morbihan. Et avant le journal de 5h30, c'est l'heure de la météo. Laurent Cabrol.
Oh là 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 là. Depuis tout à l'heure, je me gratte la tête. Je me dis, mais comment vais-je faire pour résumer ça ? Comment vais-je résumer le temps d'aujourd'hui ?
Vous avez 45 secondes, allons-y.
Bah oui, c'est 44 de trop. Et puis, donc, vous dire que sur la Côte d'Azur, la région Rhône-Alpes, la Franche-Comté, l'Alsace et les Vosges, les pluies vont s'échapper. Nous aurons un petit répit. Ensuite, les averses vont revenir. Vous voyez le genre. Lorraine, Dijonais, Auvergne, Cévennes et Midi-Pyrénées, les éclaircies perceront, mais timidement. C'est encore les régions les plus gâtées. Et puis, une nouvelle perturbation arrive par la Bretagne, le Cotentin, ce matin. Puis la vallée de la Loire, la Normandie, la Picardie, le Nord, le Poitou-Charentes dans la journée. Donc il pleuvra dans la journée dans ces régions et même dès ce matin sur la Bretagne. Enfin, Gironde, Limousin, Centre, région parisienne, Champagne-Ardennes, de plus en plus d'averses au fil des heures. Je crois avoir résumé presque correctement. J'affine tout ça parce que je suis fromager un peu dans mes ancêtres. J'affine tout ça pour 6h30. Température, pour 5h30, température, non 6h.
Pour 6h, oui.
Ils ont encore température entre 21 et 26.
Laurent Cabrol, on se réveille et on vous retrouve juste avant 6h. À tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Merci d'être fidèle au 5-7 d'Europe 1. J'accueille à présent Hélène Zélani. Bonjour Hélène.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Votre journal, il est 5h30.
Tous les matins, je regarde ma messagerie pour savoir qui m'a eu un cas contact et qui va rester à la maison.
Situation pour le moins compliquée dans les entreprises, surtout les PME qui doivent gérer au jour le jour les salariés positifs au Covid ou les cas contacts. Reportage dès le début de ce journal. Des papas plus longtemps à la maison à la naissance de leur bébé, le congé paternité va doubler et passer de 14 à 28 jours, il sera en partie obligatoire. Total arrête le raffinage à Grandpuits en Seine-et-Marne. L'idée de la direction est de reconvertir le site. Reste la question des emplois. Et puis Bernard Laporte, toujours en garde à vue, le patron du rugby français aurait œuvré en faveur du club de Montpellier.
Et si on n'avait plus besoin d'attendre un rendez-vous chez l'ophtalmo pour acheter ses lunettes ? Un rapport de l'IGAS préconise de laisser les opticiens et orthoptistes prescrire directement les verres correcteurs pour réduire les délais. Les médecins sont vent debout. La parole ce matin au président du syndicat des ophtalmologistes, Thierry Bourg, dans 10 minutes. Et puis la France bouge avec Jérôme Lacroix, toutes ces belles initiatives qui fleurissent dans nos régions. Bienvenue à tous, 5h31.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Vous le savez, le protocole sanitaire est désormais assoupli dans les écoles. Un cas de Covid n'est plus synonyme de fermeture de classe. En revanche, dans les entreprises, pas de changement. Et quand des cas sont confirmés ou que des personnes sont considérées comme cas contact, c'est souvent le casse-tête.
Oui, il faut gérer ces cas, les isoler, les repasser en télétravail, parfois les remplacer. Pas simple, comme dans cette PME de 25 salariés spécialisés dans la communication où Élise Dangean s'est rendue pour Europe 1.
La vie s'arrête pendant une semaine. Il faut se remettre en mode confinement.
Retour en télétravail la semaine dernière pour Laurence, directrice de clientèle dont le fils présentait des symptômes du Covid-19. Et ses allers-retours entre présentiel et travail à distance deviennent récurrents dans son entreprise. Les cas contacts s'accumulent. Il a même fallu reconfiner toute une équipe d'une dizaine de personnes sur 25 salariés au total. Et ce n'est pas sans conséquence sur le travail, selon Elisa, manager.
Il y a un manque de continuité en fait. Dans la relation des équipes et dans la construction.
Et celui qui jongle avec les plannings, c'est Lionel Roch, le directeur de Franco American Image.
Quand vous êtes patron de PME avec 25 salariés, vous faites l'office de DRH. Donc tous les matins, je regarde ma messagerie pour savoir qui m'a eu un cas contact et qui va rester à la maison. On pilote à vue, mais en plein brouillard. Tous les jours, on avise et on improvise.
Le chef d'entreprise regrette notamment la lenteur des tests Covid dont les résultats peinent à arriver et retardent le retour des salariés au bureau.
Le nombre de cas positifs est à nouveau au-dessus des 10 000 pour une seule journée, avec un taux de positivité qui dépasse désormais les 6 %. Tous les continents, sauf l'Afrique, enregistrent une augmentation des cas de Covid pour la semaine dernière, avec une nette hausse des décès.
Passer plus de temps avec son bébé, aider davantage la maman, on l'a appris hier soir, le congé paternité va doubler et passer de 14 à 28 jours, et cela d'ici le mois de juillet 2021.
Oui, mesure qu'annoncera officiellement Emmanuel Macron tout à l'heure lors d'un déplacement dans l'Essonne, sur le thème de la petite enfance. Pour le vice-président de l'Association nationale des directeurs des ressources humaines, c'est une avancée logique. Écoutez Benoît Serre.
Sur le fond, c'est plutôt une bonne mesure. Elle est logique avec trois éléments qu'on voit évoluer. Le premier, très important, qui est l'égalité femmes-hommes. La deuxième chose, c'est la dimension de plus en plus forte de qualité de vie au travail et d'équilibre de vie privée ou professionnelle. Et puis le troisième élément, c'est les politiques de responsabilité sociale des entreprises. Et donc c'est plutôt une bonne mesure. Maintenant, le sujet, c'est les conditions de sa mise en œuvre. Ce qu'on ignore encore aujourd'hui, c'est si ce congé paternité désormais, donc de 28 jours, sera obligatoire ou pas. Ça, ce n'était pas souhaité ni par un certain nombre d'organisations patronales. Nous, on est plutôt favorable à un dispositif d'incitation fort pour que les entreprises laissent leurs collaborateurs prendre librement les congés paternité qu'on leur reconnaît.
Un propos recueilli par Nicolas Feldman. Selon l'Élysée, il y aura bien une part obligatoire dans ce congé, mais elle fera l'objet de discussions avec les partenaires sociaux. Coût pour la sécurité sociale, plus de 500 millions d'euros.
Il est 5h34, le groupe Total arrête le raffinage sur son site de Grand-Puy en Seine-et-Marne. Un grand projet de reconversion sera annoncé demain.
Baptisé Galaxy, ce sera un projet plus vert qui ne devrait pas entraîner de licenciements secs. En revanche, la direction prévoit des départs à la retraite ou des mobilités internes vers d'autres sites. Comment la nouvelle est-elle accueillie à Grand-Puy ? Réponse avec ce reportage de Pierre Herbulot.
Des cheminées, des cuves et des grands tuyaux qui s'entremêlent. Comme les champs de betteraves, la raffinerie Total fait partie du paysage à Grand-Puy. On la voit depuis tous les jardins. Et c'est bien ce qui rend les habitants plutôt favorables au changement qui s'annonce.
Par rapport à ce qu'on respire, tout ça, pourquoi pas ?
Ça serait moins dangereux pour nous, mine de rien, qu'habitons juste à côté. Donc ça serait parfait.
Si c'est un projet bien écologique, évidemment, on ne va pas s'en plaindre. Hein,
mais il y a un long mais. Celui de Jean-Jacques Brichet, le maire de Grand-Puy. Il a travaillé dans la raffinerie quelques dizaines d'années plus tôt.
Le résultat, c'est quand même les emplois et puis un petit peu derrière la retombée économique, hein, parce que c'est quand même important pour le territoire.
Dans le local CGT du site, David Picoron, lui, a même peur que Total utilise l'écologie comme un prétexte.
La crainte, c'est que Total veuille juste faire une vitrine, sans s'occuper de la pérennité du site ou de l'emploi. D'afficher une belle vitrine, parce que c'est à la mode, il faut faire du vert. Il faut produire plus vert. Vous ne m'entendrez pas dire que c'est négatif. Le débat, il est sur la transition. Là, c'est brutal. On est suspendu à ce qu'ils vont nous dire demain.
Si le groupe assure qu'il n'y aura pas de licenciement sec, le délégué syndical craint un plan de départ volontaire et des mutations forcées. À Grand-Puy, Pierre Herbulot, Europe 1.
Et donc, selon la CGT, cette reconversion pourrait entraîner la suppression de 200 postes sur 450 et de 800 autres chez les sous-traitants.
Le monde du rugby en émoi avec la garde à vue qui continue pour Bernard Laporte, le président de la Fédération française de rugby, est soupçonné de favoritisme et de trafic d'influence avec Moed Altrad, l'homme d'affaires qui est le patron du club de Montpellier.
Oui, Bernard Laporte dénonce une tentative de déstabilisation à une dizaine de jours des élections pour la tête de la fédération. Un hasard de calendrier qui interroge.
J'ai l'impression qu'il y a eu une intervention divine.
À l'instar de l'ancien président de Toulon, Mourad Boudjelal, les partisans de Bernard Laporte sont quelque peu étonnés du timing choisi par le parquet national financier pour entendre en garde à vue le président de la Fédération française de rugby alors que les élections auront lieu dans un peu plus de 10 jours.
Elle n'est pas surprenante, mais ce qui est surprenant, c'est le calendrier. Je pense qu'on aurait pu laisser jusqu'au 3 octobre. Entre-temps, Bernard Laporte, d'ici là, il ne se serait pas enfui au Galopengos. Il serait resté en France, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je trouve ce calendrier très surprenant, très 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 surprenant. Comme je ne suis pas quelqu'un de complotiste, je pense que c'est les effets du hasard. Mais c'est un hasard heureux, quoi.
Bernard Laporte, selon les informations du journal Le Monde, a tout fait pour tenter de reporter la date de son audition en vain. Quant à Florian Grille, principal candidat contre Laporte, joint par Europe 1, il s'est refusé à tout commentaire. Il préfère, je cite, « se concentrer sur les problèmes des clubs au quotidien ».
Julien Froment et puis Eugénie Le Sommer au firmament du football féminin. L'attaquante de l'Olympique lyonnais devient la meilleure buteuse de l'histoire des Bleus, 82 sous le maillot tricolore. Des Bleus qui l'ont d'ailleurs emporté hier contre la Macédoine du Nord en match qualificatif à l'Euro.
82 buts, quel beau chiffre. C'était le journal d'Hélène Zelani à 5h38. Place aux courses avec vous Thierry Léger. Quels sont vos pronostics pour le quintet du jour ?
C'est sur l'hippodrome de Lisieux que va se courir ce quintet. Dans la 10e étape du Grand National du Trot, le Tour de France des trotteurs. Et parmi les 16 partants, j'ai choisi les plus jeunes, les numéros 11, Fakir du Loro, et 5, Fashion Queen, les deux seuls trotteurs âgés de 5 ans qui ont souvent bien figuré à un niveau supérieur et qui trouvent ici une opposition largement à leur portée. Élite Beaufour, le numéro 2, et le numéro 7, et voilà de Muse, méritent également un très large crédit. Le premier a remporté en costaud de bout en bout la 9e étape de ce GNT à La Rochelle-Châtelaillon. Quant au second, il vient par deux fois de conclure à la 2e place des 7e et 8e étapes, disputées respectivement à Mort-de-Bretagne et Saint-Malo. Enfin, je vous recommande les numéros 9, Cache du Ribe, 1, Désir Castellet, 16, Cébello Romain et 15, Balzac de Liton, qui, jugés sur ce qu'ils ont réalisé de mieux, ont tout à fait les moyens de s'immiscer à l'arrivée de ce quintet. Mon pronostic, 11, 5, 2, 7, 9, As, 16 et 15.
C'est noté Thierry Léger et on retrouve tous vos pronostics sur europe1.fr, 5h39.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
J'accueille le premier invité de la matinale. Bonjour Thierry Bourg.
Bonjour Monsieur Krebs.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes le président du syndicat national des ophtalmologistes de France. C'est un rapport de l'IGAS, hein, l'inspection générale du secteur social, qui a semé la zizanie un peu entre vous, les ophtalmos d'un côté et de l'autre les opticiens, parce que ce rapport envisage de lever l'obligation d'aller d'abord chez l'ophtalmo avant d'obtenir des lunettes chez l'opticien. Vous dites quoi ? Vous êtes complètement opposé à ce principe ?
Alors sur le principe annoncé comme ça brutalement, oui, mais c'est simplement une des 28 propositions du rapport et c'est celle qui serait mise en application si toutes les autres mesures étaient inefficaces. Actuellement, bon, lorsque vous avez un problème oculaire, il faut d'abord faire un diagnostic et d'avoir des lunettes. Et là, en fait, finalement, on veut passer directement une partie de la population par la case lunettes sans savoir s'il y a un autre problème derrière.
Le problème que l'IGAS pointe, c'est les délais. Il faut en moyenne 80 jours pour avoir un rendez-vous chez un ophtalmo aujourd'hui, avec des refus de patients qui sont fréquents. Ça ne vous déchargerait pas un peu que pour les cas les plus simples, les patients puissent aller directement chez l'opticien ?
Alors, c'est ce qu'on a mis en place depuis un certain nombre d'années, puisqu'on réfléchit à l'évolution de la filière depuis une dizaine d'années et surtout depuis 2015, puisque parmi les opticiens ont la possibilité de renouveler directement les lunettes lorsque le patient a une ordonnance qui est encore valable 3 à 5 ans suivant son âge. Il faut savoir que c'est un dispositif qui est unique en Europe. Aucun autre pays n'a ça et l'efficacité a été démontrée récemment avec la période de confinement, puisque nous avons été le seul pays qui a récupéré son niveau antérieur de délivrance de lunettes. Mmh. Tous les autres pays sont à un niveau inférieur par rapport à l'année dernière. Donc ce dispositif nous décharge effectivement. Il semble qu'il soit plus utilisé par la population. Il faut se souvenir que ce rapport de l'IGAS a été écrit donc avant le confinement, c'est en fin 2019, à un moment où le dispositif était relativement peu utilisé par les patients.
Alors, renouvellement d'ordonnance, d'accord, mais vous dites que les opticiens, eux, ne sont pas capables de faire le diagnostic, même pour des troubles faibles de la vision ?
Voilà, parce qu'actuellement, la formation des opticiens, elle est au niveau du BTS. Il n'y a aucun enseignement médical ou paramédical de soins dans la formation. C'est d'ailleurs un des sujets du rapport. C'est refonder la formation des opticiens, qui sont d'ailleurs actuellement trop nombreux. Mais bon, pour l'instant, ils n'ont pas du tout le niveau nécessaire pour faire un diagnostic, pour référer à un médecin. Peut-être dans quelques années, mais ça va prendre un peu de temps pour faire la formation.
Le rapport évoque aussi une autre piste, c'est celle d'utiliser la télémédecine. Vous seriez, vous, ophtalmo dans votre cabinet et l'opticien pourrait vous appeler en télémédecine pour examiner avec lui le patient. Ça ne vous ferait pas gagner du temps, ça ?
Alors, nous, on a mis déjà depuis plusieurs années des protocoles de télémédecine en application avec des orthoptistes, que ce soit dans les cabinets, que ce soit à distance. Ces protocoles sont en train de prendre de l'ampleur. C'est dans des lieux qui ne sont pas commerciaux. Et puis, on a de plus en plus d'orthoptistes. Le rapport préconise également de développer les cabinets secondaires sur lesquels on pourrait mettre en place effectivement des protocoles de télémédecine. Par contre, là, ça nous pose un problème majeur si c'est mis en place chez l'opticien. D'une part, on ne peut pas le faire à la fois avec les secondaires et puis dans les magasins. Et les magasins sont un lieu quand même commercial. Et faire de la télémédecine dans certains magasins et pas dans un autre, c'est donner finalement un avantage commercial à l'opticien qui aurait cette télémédecine, quoi. Donc on a un problème fondamental déontologique. Et autre souci que l'on a, c'est qu'actuellement, les opticiens n'ont pas de règles professionnelles, ils n'ont pas de code de déontologie. Donc c'est déjà des préalables qu'il faudrait créer avant d'envisager autre chose.
L'opticien est aussi un commerçant, c'est-à-dire qu'il a plutôt intérêt à nous vendre des lunettes. J'imagine que c'est aussi un biais possible.
Enfin, vous rendez bien compte qu'il y a beaucoup de publicité à la télévision sur telle ou telle enseigne. Donc il y a vraiment un secteur très concurrentiel. Et là, le médecin n'a pas à intervenir, favoriser telle ou telle enseigne par rapport à telle autre.
Le problème de fond, finalement, c'est qu'il manque des ophtalmos. On ne prend pas suffisamment de mesures pour combler ces déficits.
Alors, pendant très longtemps, la France, d'une façon générale, a sous-estimé les besoins en médecins. Contrairement à beaucoup de pays, on a beaucoup régressé en termes d'ensité médicale. Par exemple, en ophtalmologie, on était dans le premier quart il y a 20 ans par rapport aux pays développés. Actuellement, on est dans le dernier tiers. Donc, il y a effectivement besoin de former plus d'ophtalmos, ce qui est reconnu enfin par ce rapport. Et il faut savoir que parallèlement, les pouvoirs publics sont en train de mettre en place tout un système pour valider des médecins étrangers avec des diplômes obtenus dans leur pays et qui pourraient être validés en France après un cursus raccourci. Donc, dans les nouvelles projections que nous venons de faire et qui vont sortir bientôt, on n'a pas le creux qui est annoncé par l'IGAS et on devrait arriver à combler les départs en retraite qui sont effectivement très nombreux jusqu'en 2025, mais après, il y en aura beaucoup moins. Donc, il faut trouver des solutions entre maintenant et 2025 et ensuite, la situation va s'améliorer assez rapidement par tout ce qui a été mis en place depuis des années.
Il faut trouver des solutions et vous avez rendez-vous avec les différents acteurs de la filière au ministère de la Santé à la fin du mois. Vous direz quoi? Vous bloquerez le fait de donner une partie de vos compétences aux opticiens? Ça, pour vous, c'est hors de question? C'est une ligne rouge?
Ce rapport, il propose des tas de pistes et il va falloir faire des choix. On pense que sur les 28 propositions, il y a bien une vingtaine qu'on peut mettre en application assez rapidement et donc on les soutiendra. Et puis celles pour lesquelles on est opposé ou qui demandent d'être approfondies dans le temps, ben on prendra le temps qu'il faudra. Il faut savoir qu'en général, un rapport IGAS comme ça, pour que toutes les propositions soient étudiées ou mises en application ou pas, il faut compter à peu près 5 ans. Donc, on va se concentrer sur ce qui est le plus urgent et le plus efficace. Et puis après, pour le reste, on verra en fonction de l'évolution.
Merci pour vos précisions ce matin, Thierry Merci Bourg, président du Syndicat national des ophtalmologistes de France. Merci, bonne journée.
Europe 1.
Il est 6h moins le quart sur Europe 1, l'heure de mettre en lumière ceux qui font bouger la France comme chaque matin. Avec vous, Jérôme Lacroix. Où est-ce qu'on va?
On vous propose une connexion unique Rabat-Sable d'Olonne. Je vous présente l'instituteur qui ferait rêver plus d'un enfant et aussi les parents parce qu'avec lui, n'importe quel cours de maths ou de français devient presque une récré. Il apprend tout via l'un des plus grands événements sportifs du monde.
Eh ben, un héros de l'école à suivre sur Europe 1. 6h moins le quart, à tout de suite.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Il est 5h47, davantage de temps pour les pères à la naissance de leur enfant. Le congé paternité va doubler et passer de 14 à 28 jours. Plus de 10 000 nouveaux cas de Covid ces dernières 24 heures avec un taux de positivité des tests qui augmente encore à 6,1%. Et puis Donald Trump désignera samedi après-midi une candidate pour diriger la Cour suprême et succéder à Ruth Bader Ginsburg. Le cercueil de la juge est exposé à partir d'aujourd'hui à la Cour suprême avant un hommage national vendredi.
Écoutez le monde changer avec Sébastien Krebs sur Europe 1.
C'est l'heure de la France bouge sur Europe 1. Ces initiatives, ces bonnes idées des citoyens qui se bougent à travers la France pour améliorer le quotidien. Ils agissent souvent dans l'ombre, Jérôme Lacroix, mais vous les mettez en lumière. Aujourd'hui, un instituteur qui dépoussière l'enseignement.
Vous vous souvenez peut-être, il y a plusieurs mois, cette enseignante de primaire qui avait inventé en français la règle de Mbappé. J'écris M et non pas N devant MBP. Vous vous souvenez de ça? Ou encore,
joli.
Cette prof de collège qui enseignait le théorème de Pythagore grâce au triangle formé par les bras de Paul Pogba lors du DAB, vous savez, cette célébration de but propre aux joueurs des Bleus. Et ben, concilier actu sportive et enseignement, visiblement, ça match. Dans la même veine, je vous présente Stéphane Bourron, instituteur expatrié au Maroc, mais d'origine. Il est vendéen, une Vendée natale qui inlassablement revient dans son quotidien tous les 4 ans, lors de chaque édition. Du Vendée Globe, le tour du monde à la voile, le prochain par le 8 novembre. La course devient pour Stéphane Bourron un formidable support pédagogique.
Alors comment il s'y prend concrètement?
Il apprend la lecture via une présentation de l'épreuve et un questionnaire de compréhension. L'histoire via Magellan et son tour du monde. La géographie, l'étude des cartes de la course, comment s'y repérer. Les maths via les 1000 marins, la conversion en kilomètres, le calcul de distance entre deux concurrents. La littérature avec une projection par exemple sur 20 000 lieues sous les mers. Nouveauté cette année avec ses CM1 et CM2, la pollution plastique dans les océans.
Ah oui, il y en a vraiment pour toutes les disciplines.
Exactement.
Et ces travaux ont tapé dans l'œil de plusieurs marins du Vendée Globe.
Tanguy de la Motte, Quito de Pavant, il y a 4 ans, dernière édition, Stéphane Bourron et une dizaine d'élèves sont même allés au départ de l'épreuve et ont pu monter à bord d'un voilier, vous imaginez ça pour les gamins. Son travail colossal, un fichier de plus de 60 pages, il est disponible sur son site, je vous le donne, edukely.net, edukely.net.
Ah oui, donc en plus, il le met à disposition des autres enseignants s'ils veulent s'en saisir. Bah voilà,
je vous cache rien,
idées.
J'ai montré son travail hier à mon épouse qui est institutrice, elle était épatée.
Pas mal, il s'appelle donc Stéphane Bourron. Bravo à lui, merci Jérôme Lacroix. Allez, on jette un œil aux réseaux sociaux, comme chaque matin. Et ça bouge aussi, Paul Lassène.
Oui, alors si vous êtes connecté sur Twitter, par exemple, vous avez peut-être vu passer cette information. Affaire des chevaux mutilés, l'animateur et producteur Nagui, placé en garde à vue, info, parquet de Paris. Alors cette info, elle a été relayée par l'agence France Presse, pardon, Le Parisien, Libération. Sauf qu'il s'agissait d'une fake news relayée par de faux comptes pour lier l'animateur à ces terribles mutilations animales. Alors il n'en fallait pas plus pour que certains, même beaucoup d'internautes, tombent dans le panneau de ces faux comptes et relaient les messages. Ce matin, plus de 12 000 tweets ont été écrits pour réagir à cette affaire. Alors, quelle est la raison de cette fausse rumeur? Eh bien, a priori, aucune, puisque interpellés par les médias dont ils ont usurpé l'identité, eh bien, les auteurs de la rumeur assurent simplement qu'ils voulaient s'amuser. Je suis au chômage et je m'ennuie énormément, a expliqué tout simplement l'un d'eux. Nagui, lui, n'a pas réagi officiellement. Et comment a-t-il découvert cette affaire? Eh bien, tout simplement grâce à une de ses chroniqueuses. Sur Twitter, elle a partagé un montage des dizaines de tweets et fausses unes de presse relayant la fake news. On est d'accord que je suis obligé d'en faire mon sujet de chronique de mercredi, se demande-t-elle. Moi, personnellement, je ne me suis pas posé la question. En tout cas, pour le moment, rien n'a fuité quant à la volonté de Nagui de porter plainte ou non.
C'était donc des faux comptes de vrais journaux. C'est-à-dire, quand vous dites par l'AFP et Le Parisien, etc., c'est des faux comptes du Parisien.
Voilà, c'est ça.
Qui ressemblaient en tout point aux
origines. Absolument, le même logo,
origines.
Le même titre, tout.
Voilà, comme quoi toujours se méfier de ce qui circule sur les toujours réseaux sociaux.
Toujours être vigilant.
Merci Paul Lassène, à demain. On de la raconte tous les matins, tous les jours, pardon, à 14h sur Europe 1, mais tous les matins en podcast. Vous pouvez déjà écouter l'histoire du jour, celle de Robert Pichon. En 2007, dans les Vosges, un couple s'accuse d'avoir tué Robert Pichon. Mais le crime a-t-il seulement eu lieu? On de la raconte, le récit à télécharger dès maintenant sur Europe 1.fr. Ladies first! La parole aux femmes, à la soul, quand la soul devient militante. C'est l'histoire de la partition du jour avec Omblin Roche dans quelques secondes. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
5h54, c'est parti pour la partition d'Omblin Roche. Chaque matin, l'histoire qui se cache derrière une chanson ou un artiste. Et vous avez choisi, Omblin, une compilation ce matin qui sort cette semaine. Soul District, Ladies First, qui met donc à l'honneur les femmes et la musique soul.
Oui, ces chanteuses noires américaines, Sébastien, qui ont procuré à cette musique teintée de gospel et de blues une forte connotation militante.
Dans la musique noire américaine, Omblin, très tôt, des femmes ont eu le courage de montrer la voix.
La chanteuse de blues, Bessie Smith, dans les années 20, a su s'affirmer en tant que femme et en tant que femme noire dans une Amérique misogyne et rongée par le racisme. On peut citer Nina Simone aussi et bien sûr Aretha Franklin, une combattante infatigable du féminisme et des droits civiques. Dans le sillage de ces icônes mondialement connues, d'autres chanteuses soul se sont mobilisées pour dénoncer les injustices, à l'image de cette chanson, de cette chanteuse, Marina Shaw. California
soul. California soul. Les destins des légendes de la musique noire américaine ont un point de départ souvent similaire, une enfance difficile ou à la marge. Et la musique est synonyme d'échappatoire.
Pour Marlena Shaw, qui grandit à New York, c'est son oncle, trompettiste de jazz, qui détecte son talent. Elle se produit sur scène alors qu'elle n'a que 10 ans. Pendant plusieurs années, elle perfectionne son art dans différentes écoles de musique. Après être passée par l'orchestre du célèbre pianiste Count Basie, Marlena Shaw rejoint la prestigieuse maison de disques Blue Note. It seems life has played a game on me. I'm lost in a sea of...
la fin des années 60, nombreux sont les artistes qui dressent un portrait sans concession d'une époque troublée aux États-Unis.
La guerre au Vietnam, les émeutes raciales, la montée du chômage, la drogue, tout ce qui étouffe les ghettos. Ces ghettos sont de plus en plus cités dans les chansons pour dénoncer les conditions de vie effroyables de la communauté afro-américaine. Issue du ghetto, Marlena Shaw exprime les difficultés d'être une femme pour lutter pour ses opinions. Elle interpelle la société américaine et ses dirigeants. Woman of the Ghetto s'inscrit dans le mouvement de fierté noire assumée, le Black Pride, après des décennies de soumission. Marlena Shaw, 1969, Woman of the Ghetto. Oui, que vous retrouvez sur la compilation Soul District, Ladies First. Ça sort vendredi avec des titres de chanteuses comme Lynn Collins ou Martha Reeves également. Alors peut-être un petit peu moins célèbres en France que Nina Simone ou Aretha Franklin, mais qui ont su également s'engager pour obtenir plus de droits et de reconnaissance.
Voilà, Brassens hier, de la Soul aujourd'hui. C'est ça la partition d'Ambline tous les matins, juste avant 6h. À demain, Ambline.
À demain.
Laurent Cabrol, une journée de répit, vous disiez tout à l'heure.
Bah, c'est ce que je pensais, mais un répit de très très courte durée. Hein, puisque sur le flanc est, effectivement, la pluie est encore là, parce que c'est la perturbation d'hier qui s'en va. Alors le répit, il est actuellement, parce qu'on peut dire qu'il y a assez peu de pluie sur la France, mais malheureusement, ça ne va pas durer, parce qu'une nouvelle perturbation arrive. La Bretagne et le Cotentin seront les premiers concernés, ou les premières. Et puis ensuite, nous irons, ces pluies iront vers la vallée de la Loire, la Normandie, la Picardie, le Nord, le Poitou-Charentes, dans le courant de la journée, et la région parisienne, la Champagne-Ardenne seront également concernées en fin d'après-midi, début de soirée. Donc une autre zone de pluie arrive, et elle arrive assez vite, c'est la première impression que j'ai, parce que je la vois galoper sur, en mer là-bas sur l'Atlantique, et donc quand il y aura répit, ça ne va durer que quelques heures. Les températures sont en baisse, 21 à 25 degrés. Nous sommes vraiment entrés maintenant dans une nouvelle offensive de l'automne.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Merci de nous rejoindre sur Europe 1 dans ce 5-7. Si vous ouvrez l'œil, toute l'information arrive avec Sophie Echen. Bonjour Sophie.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Il est 6h.
Soulager un petit peu la mère et jouer ton rôle de père à fond pour le bébé, ça peut être pas mal. Et 28 jours, c'est pas trop.
28 jours au lieu de 14. La durée du congé paternité s'apprête à doubler, de quoi impliquer davantage les pères dans l'éducation de leur enfant et rééquilibrer les tâches familiales. Les pays de l'espace Schengen vont-ils enfin se mettre d'accord sur l'accueil des demandeurs d'asile ? Bruxelles dévoile sa nouvelle réforme de la politique migratoire aujourd'hui. Dans ce journal également, le procès des attentats de janvier 2015 et le témoignage de Lassana Bathily, le héros de l'hypercachère. Le projet de loi contre les séparatismes, il sera dévoilé début octobre par Emmanuel Macron. On fera le point sur les premières pistes. L'appel d'urgence de l'établissement français du sang alors que les stocks sont au plus bas depuis 10 ans. Et puis mercredi, c'est le jour des sorties cinéma. On vous parlera du suicide assisté traité dans le film Blackbird à l'affiche à partir d'aujourd'hui.
Dans 10 minutes, mon invité inattendu va donner de l'espoir à tous ceux qui galèrent à l'école en cette journée du refus de l'échec scolaire. C'est un ancien cancre qui nous rejoint dans un quart d'heure. Un ancien cancre qui connut plusieurs échecs au bac, mais qui devint académicien, comme quoi rien n'est écrit d'avance. Et puis notre environnement, notre planète, avec Fanny Agostini. Attention, entretenir son gazon n'est pas toujours très écolo. Bon réveil, il est 6h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La France commence à rattraper son retard sur certains de ses voisins européens. À partir de l'été prochain, le congé paternité passera de 14 à 28 jours. Emmanuel Macron officialisera l'annonce cet après-midi lors d'un déplacement dans un centre de protection maternelle infantile dans l'Essonne. Une partie de ce congé sera rendue obligatoire. Alors qu'en pensent les pères ou futurs pères ? Nicolas Feldman est allé sonder les principaux concernés.
Je dis alléluia parce que prendre le temps d'avoir une relation pérenne avec notre enfant, c'est bien.
Corentin se souvient de la naissance de ses deux premiers enfants. 14 jours de congé passés trop vite, trop intense. Alors deux fois plus de temps pour l'arrivée du troisième, il signe tout de suite.
Parce que je pense que c'est très important de jouer un rôle de père à 100% pendant 28 jours auprès de l'enfant. Les premières nuits, on sait qu'elles sont assez physiques et assez difficiles pour la mère. Donc soulager un petit peu la mère et jouer ton rôle de père à fond pour le bébé, ça peut être pas mal. Et 28 jours, c'est pas trop.
Et ce n'est pas Sonia, jeune maman, qui va le contredire.
Pour un premier enfant, en fait, en deux semaines, on arrive à peine trouver nos marques. Enfin, je me rappelle de ce sentiment que « Ah, il reprend déjà, je veux rester toute seule à la maison, il faut que je sois prête. » Donc oui, plus, c'est plus rassurant pour la famille, quoi.
À l'image de ce qui se fait pour les mamans, une partie de ce congé paternité va lui aussi devenir obligatoire. La durée reste à déterminer. Le dispositif sera détaillé dans un texte soumis au Parlement au début de l'année prochaine.
Nicolas Feldman.
C'est un sujet qui déchire les Européens. Depuis plus de 5 ans, la question de l'accueil des demandeurs d'asile. Aujourd'hui, la Commission européenne doit présenter son nouveau pacte sur ces questions migratoires.
Un pacte qui doit remplacer les accords de Dublin. Isabelle Horry, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. L'objectif, c'est de faire en sorte que les demandes d'asile soient examinées dans le pays où un migrant pose le pied en premier.
Oui, mais ce principe, lui, devrait survivre. Le problème de Dublin, c'est surtout que le texte date d'avant la crise migratoire de 2015 et qu'il n'a pas anticipé le cas d'un afflux de migrants. Rien n'est prévu, d'où les tensions fortes depuis 5 ans entre la Grèce et l'Italie d'une part et le reste de l'Union de l'autre. C'est ça que la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, veut changer.
Nous allons abolir le règlement de Dublin. Nous allons le remplacer par un nouveau système européen de gouvernance de la migration. Il y aura des structures communes pour l'asile et le retour, et il y aura un nouveau mécanisme fort de solidarité.
Bruxelles veut que tous contribuent à l'effort en cas d'urgence, soit en prenant une partie des demandeurs d'asile, soit, c'est nouveau, en prenant en charge l'expulsion des déboutés de l'asile vers leur pays d'origine. Ça devrait plaire à la Hongrie ou à la Slovaquie qui refusent les réfugiés. En contrepartie, les pays de premier accueil, eux, enregistreraient tous les migrants, avec le soutien des agences européennes, et il ferait un premier tri sur place. La Commission veut croire que ce qu'elle appelle le pacte migratoire va enfin mettre d'accord les 27.
Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles.
Il est 6h04, à la suite du procès des attentats de janvier 2015. Cette semaine, la cour d'assises de Paris se penche sur la prise d'otages de l'hypercacher.
Hier, des proches des 4 victimes abattues par Hamedi Coulibaly sont venus témoigner à la barre. Parmi ces témoignages, celui d'un rescapé, Lassana Batili. Rappelez-vous, cet employé de l'hypercacher avait aidé des otages à se cacher dans la chambre froide. 5 ans après, Lassana Batili tenait absolument à prendre la parole.
Pour moi, oui, c'était très dur et très émouvant en même temps parce que ça fait presque 5 ans qu'ils attendent ce procès. Ça m'a un peu libéré. J'ai parlé de mon parcours, j'ai parlé de l'ambiance de l'hypercacher avec mes collègues pour témoigner devant leur famille, pour dire à quel point que on était bien, on vivait ensemble, on avait des humains, on est des collègues, on s'aime tous ensemble. Il y avait des respect entre nous. C'est barbarie, ça nous a fracturés. J'ai témoigné pour dire que je suis là aussi pour les victimes, pour leur mémoire.
Voilà le témoignage et l'hommage recueilli par Chloé Triomphe pour Europe 1.
La politique, le très attendu discours d'Emmanuel Macron contre les séparatismes a été repoussé au 2 octobre. Il aurait dû avoir lieu hier.
Encore un peu de patience avant de connaître les contours du futur projet de loi. Mais le service politique d'Europe 1 s'est procuré les derniers documents du ministère de l'Intérieur. Alors Michaël Darmon, quelles sont les premières pistes de travail ?
Au ministère de l'Intérieur, on écrit le texte selon la feuille de route donnée par le chef de l'État. Il faut renforcer la capacité de surveillance des associations et au besoin pouvoir fermer celles qui sont soupçonnées de séparatisme. Et pour créer des nouveaux circuits financiers transparents, l'intention est de faire évoluer la loi de 1905 sur son volet financement, sans toucher au principe fondateur de la séparation entre les religions et l'État. Le sujet est sensible. Pour préparer les esprits, Gérald Darmanin explique d'ailleurs en petit comité « On a toiletté la loi de 1905 déjà 17 fois ». Un autre point concerne les règles de neutralité des agents du service public. Des mesures sont prévues également pour préserver et renforcer la laïcité dans le milieu sportif.
Mickaël Darmon du service politique d'Europe 1.
Europe 1. Le journal de 6h continue dans un instant avec cet appel, cette sonnette d'alarme tirée par l'établissement français du sang. Les stocks sont à un niveau extrêmement bas.
Et puis les dernières heures d'une femme atteinte d'une maladie incurable, c'est le thème de Blackbird au cinéma à partir d'aujourd'hui.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 5-7, Sébastien Krebs.
Il est 6h08, la suite du journal Sophie Echen.
Les réserves de sang sont dans le rouge. C'est le plus bas niveau depuis 10 ans. Il manque près de 20 000 poches de sang pour atteindre la moyenne habituelle de réserve. La faute notamment à la crise sanitaire qui réduit le nombre de points de collecte, mais aussi la volonté des donneurs, explique Hervé Meinrad, le directeur de la collecte et de la production à l'établissement français du sang.
La situation est délicate. On fait face à un stock qui est historiquement bas, qui est le résultat en fait d'une collecte qui est plus difficile à réaliser pour obtenir des dons de sang. Il faut savoir que notre collecte est organisée autour d'une centaine de collectes mobiles et cette collecte mobile représente 80% des prélèvements et s'appuie notamment sur les collectes organisées en entreprise et aussi dans l'enseignement au niveau des universités. Et depuis le début de la crise, même quand on peut y aller, on a des collectes qui sont très faibles, soit parce que les personnels sont en télétravail, soit parce que les étudiants suivent les cours à distance. Ça représente une perte de pratiquement, sur ces deux secteurs, 100 000 dons. Depuis le début de la crise. Il faut qu'on remonte rapidement. On peut commencer à avoir des difficultés si on reste longtemps dans cette zone.
Les propos recueillis par Maya Baldouro-Fredon pour Europe 1.
Et puis c'est mercredi, jour de sortie au cinéma. On va clore ce journal avec un film, Blackbird, qui sort dans les salles aujourd'hui.
Et sur un thème qui fait débat sur le suicide assisté. Un film où se mêlent humour, drame et tendresse. Mathieu Charrier.
Blackbird traite d'un sujet lourd mais sans être plombant. C'est la force de ce film lumineux. L'histoire de Lily, c'est Suzanne Sarandon, condamnée par une maladie dégénérative et qui décide de réunir un dernier week-end toute sa famille et sa meilleure amie avant de mettre fin à ses jours. Alors tout le monde est au courant.
Est-ce qu'on peut essayer d'avoir un comportement aussi normal que possible ?
Et chacun profite à sa manière de ces ultimes moments ensemble. Il y a des règlements de compte, des rires aussi.
Anna, Chris, vous dormez, je vais bientôt mourir, vous vous joignez à nous ?
Mais ce qui frappe, c'est surtout l'amour qui unit cette famille dans ce moment si particulier, souligne Kate Winslet, qui joue l'une des deux filles de Lily.
Ce n'est pas triste du tout, c'est humain. Quand vous côtoyez la mort, vous êtes à l'extrême limite de vos émotions. Et ça déclenche des choses extrêmes en vous, de la tristesse, des rires, tout est très intense.
Depuis qu'on a choisi une date, j'ai arrêté de penser à la mort et j'ai concentré toute mon énergie sur la vie.
Bien sûr, le film est engagé en faveur du suicide assisté, car au fil des minutes, on voit le corps de Lily lâché et on comprend cette décision de mettre fin à ses jours. Mais le débat existe à l'écran. On n'est pas non plus dans le mélodrame suintant les bons sentiments, mais dans un huis clos bouleversant, une célébration de la vie bourrée d'amour et d'humour.
Voilà, ça s'appelle Blackbird et ça sort aujourd'hui dans les
salles. C'est déjà, mais ça donne envie de le voir. Suzanne Sarandon, Kate Winslet, joli casting. Donc Blackbird au cinéma aujourd'hui. C'était le journal de Sophie Echen. Il est 6h11.
Retrouvez le journal des sports avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes.
Jérôme Lacroix, à la une de votre journal des sports, secousse au sommet du rugby français.
Le président de la fédération Bernard Laporte est en garde à vue depuis hier, comme quatre autres hommes forts du ballon ovale en France, notamment Moed Altrad, l'homme d'affaires, et Claude Haché, directeur général du Mondial 2023. Tous entendus depuis hier à Paris par la brigade de répression de la délinquance économique en quête du parquet national financier pour des soupçons de favoritisme de Bernard Laporte envers Moed Altrad, principal contributeur financier de la fédération. Et les soutiens de l'ancien secrétaire d'État d'évoquer ce matin un complot. Bernard Laporte est en effet candidat pour un nouveau mandat à la tête de la fédération et le scrutin est dans à peine 10 jours. Parmi ses soutiens, Mourad Boudjelal, ancien président de Toulon. Laporte a été l'entraîneur de son équipe.
C'est la présomption d'innocence, c'est quasiment une immission dans les élections à la fédération. Je pense qu'on aurait pu laisser jusqu'au 3 octobre. Entre-temps, Bernard Laporte, ensuite, il se serait pas enfui au Galopengos. Il serait resté en France, il n'y a pas de souci. Comme je ne suis pas quelqu'un de complotiste, je pense que c'est les effets du hasard. Mais c'est un hasard heureux, quoi. Et je me demande s'il n'y a pas des gens qui ont fait en sorte que le hasard soit heureux.
En foot, les suites du sulfureux Paris Saint-Germain-Marseille le 13 septembre, la commission de discipline de la Ligue doit entendre ce soir le Parisien Angel Di Maria, soupçonné d'avoir craché sur un joueur marseillais. Il encourt jusqu'à 6 matchs de suspension.
Et on retient aussi ce chiffre 82.
Comme le nombre de buts inscrits en équipe de France par l'attaquante Eugénie Le Sommer, désormais meilleure buteuse de l'histoire des Bleus, un but de mieux que Marinette Pichon, le record tenait depuis 14 ans. Le Sommer a inscrit un doublé hier soir en Macédoine du Nord, succès 7-0 des Françaises en éliminatoire de l'Euro 2022.
Pendant ce temps, les premières heures sous forte tension à Roland-Garros.
Climat dû au protocole Covid très rigoureux alors que se tiennent cette semaine les qualifications avant le début du tournoi dimanche. Plusieurs exclusions ces derniers jours, joueuses, joueurs, entraîneurs, pour cause de tests positifs ou parce qu'ils étaient cas contact. C'est le cas du Bosnien Dzumur, négatif mais cas contact de son entraîneur, positif. Injuste, disent les deux hommes qui envisagent de porter plainte contre l'organisation du tournoi. Pourtant, la donne était très claire dès le départ, répond Bernard Montvalant, médecin du tournoi. Une charte a été communiquée à tous les participants.
Les joueurs l'ont lue et les joueurs l'ont signée. Ce qui fait que si un entraîneur qui a été malade dort avec son joueur, il sait qu'il peut être testé positif. C'est pour ça qu'on a aussi écrit dans le protocole qu'ont signé les joueurs. On vous déconseille de dormir dans la même chambre que votre joueur. Parce que les chambres ne sont pas très grandes, elles doivent faire 20 mètres carrés. Ils rentrent dans la définition du contact à risque. On l'a écrit et les joueurs l'ont lu.
Le docteur Bernard Montalvan, micro européen de Corinne Boulou, est noté en tennis le joli coup du jeune Hugo Humbert, 22 ans, tombeur hier au tournoi de Hambourg du russe Medvedev, 5e mondial.
L'histoire du jour.
Une naissance le 11 novembre prochain sera inaugurée. Un stade, Charles de Gaulle. Et d'après le journaliste Jacques Vendroux, petit-neveu d'Yvonne de Gaulle, ce sera une première en France. Il existe déjà un stade de Charles de Gaulle au Bénin. Et devinez dans quelle ville française le stade s'appellera du nom de l'illustre général ?
Chez lui ?
Facile, ouais.
Là où il est enterré, à Colombey.
Exactement.
Les deux églises. Bon, il y a des avenues partout, il y a des places, il y a un aéroport, il manquait plus que les stades.
Ben, voilà.
On ne sait pas si de Gaulle joue au foot.
Non, mais il aimait bien regarder les sports collectifs et notamment les matchs des Bleus du rugby.
Et ben voilà, un stade Charles de Gaulle à Colombey, les deux églises. C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. À demain.
C'était le journal des sports. Toute l'actu pour bien parier est sur Europe 1 avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Europe 1. Il est 6h15 sur Europe 1 et c'est l'heure de découvrir qui est l'invité inattendu du 5-7. C'est un homme de lettres ce matin, mais qui vient nous parler de l'échec scolaire. Il fut cancre, oui, mais il est devenu académicien. Bonjour.
Bonjour, c'est Jean-Marie Roir.
Bonjour Jean-Marie Roir, bienvenue sur Europe 1. Merci de jouer le jeu de l'invité inattendu. C'est la journée aujourd'hui du refus de l'échec scolaire. Échec scolaire auquel vous, l'académicien, vous avez été confronté. C'est ce qu'on découvre ce matin et vous allez nous raconter. A tout de suite sur Europe 1.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
L'invité inattendu du 5-7 est donc l'écrivain, membre de l'Académie française, Jean-Marie Roir, ce matin, qui vient nous parler de l'échec scolaire à l'occasion de ce 23 septembre, qui est chaque année une journée qui est consacrée. Votre témoignage, Jean-Marie Roir, prend tout son sens ce matin, parce qu'aussi surprenant que cela puisse paraître, vous, l'académicien, vous avez été confronté à des difficultés à l'école.
Oui, j'étais complètement nul et ça a commencé très tôt. C'est qu'en 7e, par exemple, eh bien, le directeur du collège avait dit à mes parents que j'étais inapte pour le travail intellectuel et que je devais entrer en apprentissage. Mon père était tout à fait prêt à ce que je devienne ébéniste. Et c'est moi qui ai refusé. J'ai dit, je veux continuer à faire des études. Et donc, j'ai continué à faire des études.
Ce sont les enseignants qui vous disent, vous êtes inapte à la réussite à l'école.
Et ils n'avaient pas complètement tort, puisque j'ai raté mon bac une première fois, une deuxième fois. Et la troisième fois, je l'ai obtenu. J'ai obtenu 7 de moyenne grâce à la gymnastique, parce que la course à pied m'a donné les points suffisants pour passer l'oral de rattrapage. Mais attention, c'était le bac d'autrefois, latin-grec. Ça aurait été le bac d'aujourd'hui, je crois que j'aurais eu une mention. Et ensuite, j'ai raté ma première année de droit. Donc, j'étais vraiment très nul, mais j'ai eu la surprise un jour d'avoir un coup de téléphone d'un monsieur qui m'a dit « Je voudrais que vous soyez le président de l'association des surdoués ». J'ai cru que c'était une blague de Jean d'Ormesson ou de Gonzague Saint-Brice. Ben non, pas du tout, c'était vrai. J'ai présidé le congrès des surdoués à Strasbourg. Et j'avais beau dire que j'étais nul et un peu idiot, à ce moment-là, ils m'ont dit, mais pas du tout, c'est typique des surdoués. Et mon avantage, parce qu'il y a toujours un avantage ou un inconvénient, c'est que ça m'a donné une curiosité formidable.
Vous vous êtes fait vous-même, au
final.
Voilà,
c'est un autodidacte, et c'est ce qui me correspondait. Moi, je suis bon à partir du moment où on me fait confiance pour aller dans mon sens. Et mon sens, c'était il faut bien le reconnaître, je suis un miraculé de la culture générale. Parce qu'à l'âge de 13 ans, je lisais la Chartreuse de Parme, je lisais Dostoïevski. C'est la lecture qui m'a arraché à ma nullité. Mais heureusement, il y avait la littérature et le journalisme. Je crois que dans tous les autres domaines, j'aurais été complètement nul. Employé de banque, n'importe quoi. J'aurais été vraiment en dehors, si vous voulez, de mes véritables centres d'intérêt.
Vous dites quoi ce matin aux parents qui peuvent être confrontés aux difficultés scolaires de leurs enfants? Quand on n'arrive plus comme ça à les pousser, vous voyez quoi comme méthode pour les sortir de l'échec?
Surtout comprendre que cet échec scolaire, pour les enfants, c'est un drame. Et surtout leur donner confiance. Leur donner confiance, leur dire « ça marchera ». Parce que quelquefois, il y a un déclic qui se produit un peu plus tard. Et surtout, essayer de développer en eux, justement, leur centre d'intérêt. Et puis la lecture, parce que la lecture, c'est merveilleux. C'est une façon de se situer, d'apprendre énormément de choses et de se confronter à des génies extraordinaires.
Si l'école ne marche pas, il faut trouver ce qui marche. Il y a bien quelque chose d'autre qui doit marcher. C'est
exactement.
Ça le message.
Vous savez, tout le monde a une sorte de faculté maîtresse qu'il faut développer. Et c'est ce que le système actuel, disons, de l'éducation ne fait pas. Il met tout le monde sur le même plan. Ceux qui sont un peu marginaux ne marchent pas avec ce système. Moi, il se trouve que j'étais un peu marginal. Je crois que je le suis toujours, d'ailleurs, y compris à l'académie. Mais je crois surtout que les parents ne se fâchent pas, qu'ils ne terrorisent pas leurs enfants. C'est pas en les engueulant que ça améliorera les choses. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents merveilleux qui m'ont toujours trouvé des qualités extraordinaires, même quand j'étais nul.
Vous voyez, alors donc, ça s'est bien terminé pour vous, hein, évidemment. Prix Interallié en 77, Renaudot 83, et puis vous entrez à l'Académie française en 97. Mais alors là aussi, alors, il y a une sorte peut-être de malédiction, mais là aussi, vous ne rentrez pas à l'Académie française du premier coup. Il y a quand même eu des échecs.
Oui, je suis rentré la cinquième fois, comme Victor Hugo.
On apprend toujours de ses échecs?
On n'apprend que de ses échecs. Et moi, vous savez, vraiment, je vis avec mes échecs. Et je bénis le ciel de tous ces échecs, parce que c'est ce qui permet l'endurance, c'est ce qui permet d'affronter la difficulté. Franchement, pour les gens qui ont un peu d'ambition, ce sont toujours des échecs. Et mon modèle de ce point de vue, ça a été Napoléon. Napoléon, auquel j'ai consacré un livre, n'a connu que des échecs. Et finalement, d'échec en échec, il est arrivé à ce qu'il à finalement faire quelque chose de sa vie.
Ben voilà, même les plus grands ont connu l'échec, c'est votre message ce matin. Jean-Marie Roir, l'académicien qui rata plusieurs fois son bac. Voilà le message ce matin, en cette journée de lutte contre l'échec scolaire. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu de l'invité inattendu du 5-7. Très bonne journée à vous.
Merci.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Il est 6h23, l'essentiel de l'actualité à retenir ce matin. Et encore plus de 10 000 nouveaux cas de Covid enregistrés au cours des dernières 24 heures. Le taux de positivité des tests continue de grimper à plus de 6%. Un nouveau conseil de défense sanitaire doit avoir lieu ce soir ou demain. 28 jours au lieu de 14, la durée du congé de paternité va doubler. Emmanuel Macron va officialiser cette mesure. Aujourd'hui, elle devrait entrer en vigueur à la mi-2021. Et puis Bruxelles présente aujourd'hui sa très attendue réforme de la politique migratoire avec un nouveau mécanisme de solidarité obligatoire entre les 27 États membres de l'Union européenne.
Europe 1.
Le 5-7 continue dans quelques secondes avec vous, Fanny Agostini. Bonjour.
Bonjour Sébastien.
On regarde notre planète, notre environnement, comme chaque matin. De quoi nous parlez-vous?
Alors, je vais vous faire un véritable pamphlet contre la pelouse.
Ah oui, bon, ben, avec oui, ça. À tout de suite. À tout de suite.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
6h27, on écoute le monde changer et on regarde chaque matin notre planète avec Fanny Agostini. Fanny, vous nous avez donc promis un pamphlet ce matin contre nos pelouses. Comment ça, on peut être pour l'environnement et contre la pelouse? Il n'est pas si vert le gazon?
Ah non, le gazon n'est pas si vert et je vais vous expliquer pourquoi, Sébastien. Entretenir son gazon est une aberration écologique dans le sens où c'est une dépense faramineuse d'énergie, en eau déjà pour ne pas qu'elle se dessèche, en carburant pour faire marcher la tondeuse, ouais, et en engrais chimiques pour la maintenir. Et une perte de temps évidemment énorme pour effectuer toutes ces tâches.
Et vous nous dites que la tondeuse à gazon est une machine à broyer la biodiversité.
Mais oui, complètement. Alors qu'au contraire, les espaces non tondus sont des zones refuges. Les hautes herbes servent d'abri, de nourriture et de lieu de reproduction à la biodiversité. Ayons à l'esprit que le gazon est une forme, finalement, de monoculture et que privilégier la diversité végétale est bien meilleur, notamment pour les insectes pollinisateurs. Si toutefois, vous ne pouvez pas souffrir qu'un brin d'herbe dépasse, il faut au moins essayer de patienter en retardant la tonte au maximum pour que les plantes puissent réaliser leur cycle et monter en graines et donc puissent puissent se reproduire, en général plutôt après la mi-juin. Ou sinon, pratiquer ce que l'on appelle la tonte différenciée, c'est-à-dire en ne tondant qu'une partie de votre terrain pour laisser libre champ à la biodiversité sur des espaces que vous souhaitez leur réserver.
Alors, vous nous parlez de ces vertus de ne pas tondre nos pelouses, alors qu'aux États-Unis et même ailleurs, négliger sa pelouse peut valoir une amende.
Oui, je prends l'exemple des États-Unis parce que c'est le plus probant. Ça va très très loin là-bas. L'an passé en Floride, un homme s'est vu rappeler à l'ordre par sa municipalité et menacé d'une amende de plusieurs milliers de dollars parce qu'il n'avait pas tondu sa pelouse depuis des mois et que le terrain devenu une jolie prairie faisait désordre à côté des carrés verts impeccables du voisinage, vraisemblablement outré par cette grave négligence. Dans la ville de Jupiter, c'est même un moyen très tordu de faire rentrer de l'argent en taxant les personnes dont le gazon dépasserait les 20 cm. Si aux États-Unis, Sébastien, on touche le fond, ici en France, nous pouvons montrer l'exemple. Si nous avons un jardin, adoptons des pratiques de bon sens ou suggérons à nos maires de multiplier les espaces verts en ville en laissant opérer la diversité tout en conservant tout l'attrait récréatif de ces lieux. Un des meilleurs exemples que j'ai en tête parce que j'habitais là-bas auparavant, c'est le parc de l'île Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux où des massifs de fleurs spontanées côtoient aussi des ronciers et des zones en jachère à côté des espaces plus agréables aménagés pour s'asseoir et pique-niquer. Un juste milieu est vraiment à trouver, le mieux étant de dire définitivement non au gazon.
Non au gazon, bon alors après un jardin en mode hautes herbes, c'est pas forcément hyper confortable, mais bon.
Ouais, essayez.
Au moins le message est passé, chacun en fera ce qu'il voudra. Merci Fanny Agostini, Notre Planète, tous les matins avec vous à 6h25, à demain. Laurent Cabrol, c'est à vous.
La France, vous avez connu, si vous êtes auditeur d'Europe 1, qui avait trouvé la solution. Lui, il avait carrément bitumé sa pelouse, comme ça, vous êtes tranquille, il n'y avait rien. Il a passé toute sa pelouse au bitume.
Le temps du jour, Laurent.
Oui, je sais, j'arrive. Pas que moi qui suis en retard. Alors, sur la Bretagne et le Cotentin, nous avons de la pluie qui arrive. Elle va gagner la Vallée de la Loire, la Normandie, la Picardie, le Nord et le Poitou-Charentes. Et puis, sur le flanc Est, nous avons également de la pluie. Et ces pluies vont s'en aller. De sorte que nous aurons une journée souvent ponctuée de pluie, de verse, de vent. Et une journée pas très désagréable, alors qu'elle pouvait être une journée de répit. Des températures entre 21 et 26.
Merci Laurent, à tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Le 5-7 continue. Merci de nous rejoindre sur Europe 1. Un nouveau journal tout de suite. Bonjour François Geffrier.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Il est 6h30.
Pour nous et nos frères musulmans, il n'y a aucun problème. On est plus que des frères. Ces gens-là, ils ne s'appellent pas des musulmans, ils s'appellent terroristes.
La mise au point du père d'une des victimes d'Amédie Coulibaly, récit dans un instant de l'audience très forte consacrée hier à la prise d'otage de l'hypercachère. Grand Puy n'aura plus de raffinerie. Le groupe Total va transformer son site de Seine-et-Marne. On vous dira pourquoi ce choix de reconversion. Et puis Bernard Laporte en garde à vue, une procédure qui interroge une partie du monde du rugby à 10 jours de l'élection à la présidence de la Fédération française.
On écoute le mot changer sur nos routes ce matin. Et si dans un avenir plus proche qu'on ne le pensait, la voiture 100% électrique coûtait finalement le même prix qu'une voiture thermique. C'est un peu la promesse faite cette nuit par le patron de Tesla. L'avant-gardiste Elon Musk annonce des avancées sur les batteries. Il promet une voiture électrique à 25 000 $ dans 3 ans. On va décrypter tout cela dans 10 minutes avec Laurent Eke, expert des mobilités. À suivre aussi votre revue de presse internationale et puis l'autre expert du futur, Anissé Mbida. Bienvenue, 6h31.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Entamé il y a 3 semaines, le procès des attentats de janvier 2015 continue de charrier jour après jour des souvenirs particulièrement douloureux. Depuis lundi, les audiences sont consacrées au vendredi 9 janvier, ce jour où les clients et les employés de l'hypercachère de la Porte de Vincennes ont vécu 4 heures de prise d'otages et la mort de 4 d'entre eux abattus par Amédie Coulibaly.
Des proches des victimes ainsi que des rescapés sont venus témoigner hier devant la cour d'assises spéciale de Paris. Chloé Triomphe était dans la salle pour Europe 1.
Des témoignages tellement à vif que certains proches ont préféré faire parvenir des lettres lues par d'autres membres de la famille incapables de supporter l'épreuve de la cour d'assises. La veuve de Michel Saada a écrit par exemple que depuis ce funeste vendredi, elle les a tous comptés. Il y en a eu 297 et le vide est toujours aussi grand, écrit-elle. La veuve de Philippe Braham, elle, a préféré venir, mais elle a terminé sa poignante déposition, éplorée et toujours inconsolable. Son mari était retourné ce vendredi vendredi à l'hypercachère pour chercher les produits qu'il avait oubliés la veille sur la liste de courses. Quant à Batou Attab, grand rabbin de Tunis et père de Yoav, abattu alors qu'il tentait de s'emparer de l'arme d'Amédi Coulibaly, il a tenu à faire une mise au point.
Moi je suis d'un pays arabe, de Tunis, d'un pays musulman, mais entre nous et nos frères musulmans, il n'y a aucun problème, on est plus que des frères. Ces gens-là, ils ne s'appellent pas des musulmans, ils s'appellent terroristes.
Et aujourd'hui, la cour d'assises va poursuivre les témoignages d'otages de l'hypercacher.
Cela faisait 54 ans que les grandes cheminées rouges et blanches étaient dans le paysage à Grand-Puy en Seine-et-Marne. Total va annoncer demain l'arrêt de la raffinerie. Le site va être reconverti. Olivier Samain nous explique pourquoi le groupe pétrolier prend cette décision historique.
Il y a un contexte général, celui d'une baisse prévisible des besoins en produits raffinés, avec l'attrait grandissant des Français pour les voitures à moteur hybride ou électrique. Et il y a, facteur aggravant, l'apparition l'année dernière d'une fuite sur l'oléoduc qui achemine le pétrole du terminal du Havre au site de Grand-Puy. Voilà comment la direction de Total devrait justifier demain son projet d'arrêter le raffinage à Grand-Puy. L'arrêter, mais pas fermer le site. Grand-Puy sera reconverti vers une nouvelle activité, nous a dit hier une source proche du dossier. Et des investissements seront engagés. L'emploi sera-t-il maintenu pour autant ? La CGT évoque la suppression de 250 postes. Ce que réfute notre source. Personne ne perd son emploi chez Total lorsqu'il y a des évolutions industrielles, nous dit-elle. Et de rappeler les précédents des raffineries de Carlin, près de Metz, et de La Mède, près de Marseille, où la reconversion des sites n'a provoqué aucun licenciement, seulement des départs à la retraite et des mobilités internes.
Le débat a fait rage tout cet été entre les betteraviers et les écologistes, avec au milieu le gouvernement comme arbitre. Les néonicotinoïdes, ces produits très néfastes pour les abeilles et interdits depuis 2018, vont avoir leur dérogation. Le projet de loi passe en commission des affaires économiques cet après-midi à l'Assemblée nationale.
Cette filière agricole a présenté hier une série d'engagements qui doivent permettre d'accélérer la transition. Mais les députés écologistes et les associations sont vent debout.
Alors Virginie Salmen, comment le gouvernement essaie de faire passer cette mesure ?
Eh bien d'abord, en montrant patte blanche. Producteurs de betteraves et chercheurs de l'INRA ont présenté hier un plan. Ils s'engagent notamment à diminuer de 25% l'usage de graines enrobées de néonicotinoïdes. Concrètement, ça veut dire ne semer qu'une graine sur quatre qui contient du produit et le reste sans insecticides. Mais ces promesses sont loin de convaincre les ONG et les premiers intéressés, les apiculteurs, qui comptent faire un happening avec 577 photos d'abeilles grand format ce matin devant l'Assemblée. Loïc Leray, vice-président du principal syndicat d'apiculteurs.
On se fiche de nous depuis 25 ans. C'est toujours le pot de terre contre le pot de fer. Et on voit très bien aujourd'hui que le lobbying et puis le puissant syndicat national qui est la FNSEA fait encore plier les politiques au détriment de la logique. Et ça, c'est scandaleux. Pour nous, vouloir faire ce forcing même sur 3 ou 4 années, les dégâts vont être encore considérables en matière de rémanence dans le sol.
Autre façon de rassurer, le projet de loi devrait subir deux modifications importantes. L'assurance que les dérogations concerneront uniquement les betteraves et pas les autres cultures via un amendement. Et la création d'un conseil de surveillance d'une vingtaine de membres, c'est une première. Ils iront dans les champs tous les 3 mois contrôler que les agriculteurs mettent bien en œuvre leurs promesses.
Virginie Salmen, spécialiste environnement d'Europe 1.
Et on en vient à cette affaire qui secoue le rugby français. Bernard Laporte a passé la nuit en garde à vue, entendu par le parquet national financier, car soupçonné de favoritisme et de trafic d'influence.
Oui, mais le moment auquel interviennent ces gardes à vue, celle de Bernard Laporte et d'autres cadres, suscite beaucoup de commentaires, comme Julien Froment s'en est rendu compte pour Europe 1, alors que Bernard Laporte est candidat à sa propre succession à la tête de la Fédé.
J'ai l'impression qu'il y a eu une intervention divine.
À l'instar de l'ancien président de Toulon, Mourad Boudjelal, les partisans de Bernard Laporte sont quelque peu étonnés du timing choisi par le parquet national financier pour entendre en garde à vue le président de la Fédération française de rugby, alors que les élections auront lieu dans un peu plus de 10 jours.
Elle n'est pas surprenante, mais ce qui est surprenant, c'est le calendrier. Je pense qu'on aurait pu laisser jusqu'au 3 octobre. Entre-temps, Bernard Laporte, d'ici là, il ne se serait pas enfui au Galopengos. Il serait resté en France, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je trouve ce calendrier très surprenant. Très surprenant. Comme je ne suis pas quelqu'un de complotiste, je pense que c'est les effets du hasard. Mais c'est un hasard heureux, quoi.
Bernard Laporte, selon les informations du journal Le Monde, a tout fait pour tenter de reporter la date de son audition en vain. Quant à Florian Grille, principal candidat contre Laporte, joint par Europe 1, il s'est refusé à tout commentaire. Il préfère, je cite, « se concentrer sur les problèmes des clubs au quotidien ».
Julien Froment.
C'était le journal de François Geffrier sur Europe 1, il est 6h37.
Europe 1.
Et j'accueille l'invité du 5-7 ce matin. Bonjour Laurent Eké.
Bonjour.
Bienvenue sur Europe 1, merci d'être avec nous. Vous dirigez le MAP, l'Observatoire des experts de la mobilité. On a besoin de vos lumières ce matin sur la voiture du futur, après les annonces cette nuit du patron de Tesla, Elon Musk, qui veut révolutionner cette voiture électrique. Il annonce un modèle beaucoup moins cher d'ici 3 ans. Vous allez nous dire si c'est crédible. A tout de suite sur Europe 1.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
Il est 6h40 sur Europe 1. On écoute le monde changer ce matin avec l'invité du 5-7, le directeur de l'Observatoire des experts de la mobilité, Laurent Hecquet. On a besoin donc de votre éclairage sur la voiture du futur après cette intervention la nuit dernière d'Elon Musk, le patron de Tesla, qui promet une voiture électrique à 25 000 $, donc autour de 21 000 € dans 3 ans. Ça veut dire, Laurent Hecquet, clairement qu'on se rapproche du prix d'une voiture thermique. On va se retrouver avec des voitures électriques qui coûtent le même prix ? C'est crédible ?
En tout cas, il va falloir, parce qu'aujourd'hui, le véhicule électrique ne se vend pas. Donc, il y a bien une raison, c'est qu'il est trop cher et que son autonomie n'est pas encore à la hauteur de ce que peuvent attendre les consommateurs. Donc, Elon Musk est un excellent communicant, c'est un excellent visionnaire, et il a bien compris que la batterie, c'était l'enjeu, et peut-être qu'il est très opportuniste, en tout cas, pour essayer de positionner, de garder la suprématie de sa Tesla. Mais il est clair aujourd'hui que l'enjeu pour le véhicule électrique, c'est la batterie. Alors quand vous dites véhicule du futur, c'est pas un véhicule du futur, c'est un véhicule déjà actuel, mais il est clair qu'il faut l'améliorer et que la batterie, c'est l'enjeu.
Oui, parce que vous dites la batterie, c'est l'enjeu, parce que c'est grâce à des économies faites sur la batterie qu'il parvient à baisser les prix.
Vous savez, la batterie, c'est 3/4 de la valeur ajoutée du véhicule électrique. Donc, lorsque vous allez réussir à améliorer la production de la batterie, à utiliser des produits beaucoup moins chers pour le fabriquer, à augmenter la durée de vie de la batterie, à limiter son recyclage, à augmenter l'autonomie, eh bien, vous allez forcément baisser le coût aujourd'hui de ce véhicule. Donc, il est clair que quelque part, c'est très très important. Et je signale que, en fait, si Elon Musk se positionne là-dessus, bien évidemment, tous les constructeurs qui travaillent sur le véhicule électrique le font également. Et je voudrais souligner l'action de la PFA, la plateforme française automobile, qui a lancé d'ailleurs un axe stratégique qu'elle appelle l'électronique de puissance. Parce qu'aujourd'hui, on sait que pour améliorer un véhicule électrique, il va falloir trouver 2 ou 3 prix Nobel pour améliorer la gestion de cette électronique et la gestion de la batterie, de façon à ce que nous puissions espérer avoir des véhicules qui aient véritablement de grandes autonomies.
Ouais, c'est tout le défi. Elon Musk, Tesla garde beaucoup d'avance sur nous les Européens.
Je pense qu'il a eu de l'avance. Tout le monde a vu qu'effectivement les actions de Tesla avaient chuté en une journée. Il y a bien une raison. Ça veut dire aujourd'hui aussi qu'il a une concurrence. La Tesla est extrêmement chère. Elle était 100% électrique avec une grande autonomie. Mais aujourd'hui, les constructeurs arrivent avec des gammes qu'on appelle les PHEV, c'est-à-dire les hybrides rechargeables. Vous avez donc aujourd'hui un choix pour le consommateur d'acheter un véhicule qui est encore cher, hein, mais qui est un véhicule électrique pour la ville et un véhicule thermique pour les grands déplacements. Faut savoir quand même que nos déplacements maximum font 50 km. 80% de nos déplacements quotidiens font moins de 50 km. Donc c'est une stratégie pour pouvoir répondre à ce besoin de décarboner les transports et d'émettre moins de CO2. Donc la concurrence s'installe progressivement. Elon Musk avait de l'avance. Il en a de moins en moins. Mais je pense que dans un proche avenir, vraiment les constructeurs auront fait un effort pour arriver eux aussi à proposer des véhicules qui soient équivalents peut-être Tesla. Mais en tout cas aujourd'hui, on voit bien que ce que l'on propose en véhicule électrique, c'est trop cher, avec des autonomies trop faibles, et nous ne sommes pas dans les mêmes gammes que les Tesla.
Vous parlez de l'hybride qui fonctionne bien, hein. Bon, à un certain prix, vous le disiez. Ça risque finalement d'étouffer l'électrique, si l'hybride prend vraiment dans les années qui viennent ?
Alors ça n'étouffera pas l'électrique parce que l'électrique est positionné comme le véhicule sur lequel le particulier devra être. On ne sait pas ce que seront toutes les énergies du futur. Il y a beaucoup de recherches et les ingénieurs travaillent activement sur tout ce que peuvent être demain les énergies alternatives. Mais il est programmé que le particulier sera positionné sur le véhicule électrique. Alors à quel horizon ? C'est tout l'enjeu. Mais ce qui veut dire aujourd'hui que lorsque comme nous n'avons pas encore la technologie qui permet effectivement de satisfaire ce 100% électrique, eh bien on est sur de l'hybridation, sur de l'alternative. Mais n'oublions pas qu'à 2040, il y a une grande échéance qui est la fin de l'utilisation des énergies fossiles. Ce qui veut dire que lorsqu'on a une hybride qui utilise encore un moteur thermique qui marche à l'essence, eh bien on est avec de l'énergie fossile qui est une énergie qui émet du carbone. Ouais. Donc l'enjeu va être véritablement peut-être de trouver de l'hybridation si on conserve un moteur thermique avec des carburants qui seront totalement décarbonés. Et là encore, on n'a pas la solution.
Il restera à trouver aussi les bons composants pour ces batteries qui posent souvent problème en termes écologiques.
Alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Effectivement, aujourd'hui on utilise des terres rares, notamment du cobalt, avec beaucoup de discussions sur l'origine et l'exploitation dans les mines d'enfants même. Donc c'est quand même une problématique. Et le cobalt est cher et ce sont des terres rares. Donc lorsqu'on aura trouvé des métaux en nombre beaucoup plus important et moins coûteux, eh bien on arrivera à baisser les coûts de production. Et c'est en cela aussi que de toute façon l'Europe se positionne avec un consortium sur la batterie, c'est-à-dire d'essayer de rapatrier chez nous la production de ces batteries, parce que si on utilise aujourd'hui des batteries qu'on va acheter majoritairement en Chine, et je vous ai dit tout à l'heure que la batterie c'est trois quarts de la valeur ajoutée du véhicule, et bien notre balance commerciale qui est déjà en mauvaise position le sera encore plus. Donc il est important que l'Europe remaîtrise la fabrication de cette batterie, la réindustrialise ici en Europe, chez nous, pour notre économie. C'est un enjeu économique, un enjeu stratégique, un enjeu écologique. Et puis, bien évidemment, il faut que nos chercheurs fassent preuve de génie pour trouver véritablement une batterie qui soit véritablement adaptée écologiquement, économiquement et technologiquement.
Merci beaucoup Laurent Eke, directeur général de l'Observatoire des experts de la mobilité, de nous décrypter donc cette course avec les Européens d'un côté, les Américains, Tesla de l'autre, la course à l'électrique. Merci à vous, bonne journée.
Merci à vous.
Europe 1.
6h46, le 5-7 continue avec vous Anissa Mbida, bonjour.
Bonjour Sébastien.
Votre innovation du jour dans quelques secondes, à tout de suite.
Europe 1. Sébastien Krebs.
Il est 6h48, le congé paternité va doubler pour atteindre 28 jours, dont une partie sera obligatoire. La réforme s'appliquera dès l'été prochain. 30% de doses supplémentaires de vaccins contre la grippe saisonnière ont été commandées par le ministère de la Santé. La vaccination commencera mi-octobre. Et puis une quatrième victoire en 4 matchs de qualification à l'Euro pour les joueuses de l'équipe de France de foot. 7-0 hier contre la Macédoine du Nord. Et c'est l'heure de l'innovation du jour d'Anissé Mbida et on en a peut-être terminé avec le lait qui déborde des casseroles ou des bouteilles de soda qui d'un seul coup explosent et giclent partout. Vous nous avez trouvé, Anissé, un revêtement qui empêche la mousse de se former.
Oui, et j'aurais bien aimé l'avoir, ce revêtement, parce qu'hier soir, j'ai fait des pâtes et c'était la cata dans la cuisine. Ça a débordé, il y en avait partout. Et bien bientôt, on aura des casseroles avec un micro-motif gravé à la surface qui sont capables de supprimer la mousse au fur et à mesure qu'elle se forme. C'est un revêtement qui a été mis au point par des chercheurs du MIT. Ils se sont rendus compte que des petites bulles se transformaient très rapidement en mousse parce qu'elles avaient tendance à rebondir sur les parois. Donc, ils ont conçu un revêtement qui les force à se dissiper et à s'éclater. Bah, du coup, elle ne s'accumule plus et du coup, il n'y a plus de mousse.
C'est magique. C'est un revêtement qu'on peut rajouter partout, sur n'importe quel récipient.
Oui, on a parlé des casseroles, mais ils ont aussi fait la démonstration sur des verres. On pourrait même imaginer des bouteilles, hein, je ne sais pas moi, du champagne impossible à faire gicler.
Ouais,
ça serait dommage. Mais les premiers à l'utiliser, ce seront certainement les industriels parce que les bulles et la mousse, c'est un véritable fléau dans les processus de fabrication. Que ce soit pour la production de papier, de biocarburant, de shampoing ou de cosmétiques, la mousse finit parfois par prendre plus de place que le produit. Elle peut même arriver jusqu'à boucher les canalisations.
D'où l'idée de faire des cuves entières, des cuves anti-mousse.
Exactement. Aujourd'hui, les industriels sont obligés d'utiliser des produits chimiques pour limiter la mousse, mais ensuite, il faut tout filtrer pour tout éliminer. Bref, c'est compliqué, c'est cher. Donc, on n'est pas les seuls avec nos casseroles à attendre ce revêtement magique. Il devrait arriver dans les prochaines semaines.
Et pour la bière, une petite mousse, on la garde quand même.
Oui, 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 quand même.
Avec modération. Merci, c'était l'innovation du jour, d'Anissé Mbida. À demain. 7h10, nous ouvrons ensemble, comme chaque matin, notre revue de presse internationale, l'actualité telle qu'elle est vécue ailleurs sur la planète. Nous allons d'abord au Japon. Bonjour Bernard Delattre.
Bonjour Sébastien.
Qu'est-ce qui fait la une ce matin à Tokyo ?
Le tout nouveau gouvernement qui vient d'être formé, il compte 18 hommes et 2 femmes. On est très loin de la parité, vous le voyez. Ça énerve le quotidien Tokyo Shimbun, pour qui, franchement, le nouveau Premier ministre Yoshihide Suga ne s'est pas foulé. Et le journal Asahi Rangeri, la représentation politique des femmes est décidément effarante dans ce pays où 85%, 5% des parlementaires sont des hommes. En plus, et ça indigne les réseaux sociaux, des ministres ont été promus alors qu'ils avaient tenu des propos sexistes. Les talk-shows télévisés, eux, rappellent que dans le palmarès mondial sur l'égalité homme-femme, le Japon se situe au niveau de pays comme le Koweït ou les Émirats arabes. Et pour cause, ici, la notion de harcèlement sexuel ne figure même pas dans le code pénal et le code civil n'autorise pas les femmes mariées à utiliser leur nom de jeune fille. Bref, insiste en édito le Asahi, on se croirait vraiment dans les années 50.
18 hommes et 2 femmes seulement au nouveau gouvernement japonais. Merci Bernard Delattre à Tokyo pour Europe 1. Deuxième étape ce matin, direction le Brésil. Bonjour Marine Audacher.
Bonjour Sébastien.
De quoi parle-t-on dans la presse brésilienne ?
On parle ici de l'intervention vidéo de Bolsonaro à l'Assemblée Générale de l'ONU. Pour lui, l'Amazonie est la cible d'une campagne brutale de désinformation. La région brûle depuis de longues semaines et la Folha de São Paulo souligne que le président minimise les incendies et nie la négligence environnementale de son gouvernement. Un discours défensif et négationniste, insiste le quotidien. Sur les réseaux sociaux, le hashtag Bolsonaro Mentiroso, Bolsonaro menteur, est l'un des plus populaires, tout comme les caricatures du président masquées avec un grand nez digne de Pinocchio. Bolsonaro a également accusé les Indiens d'être responsables des feux de forêt. Une affirmation reprise et dénoncée par l'ensemble de la presse ici. Pour Marcelo Freixo, député fédéral à Rio pour le parti Socialisme et Liberté, c'est surtout le pire président au monde. Et il conclut sur Twitter, Bolsonaro, vous êtes un crétin.
Merci. Marine Audacher, correspondante Europe 1 au Brésil. Nous terminons ce tour du monde ce matin à Rome. Bonjour Blandine Hugonnet.
Bonjour Sébastien.
À quoi s'intéressent les journaux en Italie ?
Eh bien ici, on parle du footballeur Luis Suarez. Il a triché à un examen pour obtenir un passeport italien. Les médias révèlent toute l'histoire. La Juventus de Turin a promis une place à l'attaquant uruguayen à condition qu'il ait la nationalité italienne. Et pour l'avoir, le joueur a bidonné l'examen de langue obligatoire. Tout était truqué, prévient la Gazzetta dello Sport. Le sujet et la note finale lui avaient été donnés avant l'épreuve. C'est ce qu'ont découvert les enquêteurs qui ont mis ces examinateurs sur écoute. La Stampa retranscrit leurs échanges. Il ne peut pas aligner deux mots, il ne sait pas conjuguer les verbes. Mais avec un salaire de 10 millions d'euros par saison, on ne peut pas le recaler, dit sa professeure. Résultat des courses, c'est la justice qui le recale, écrit le Corriere. Sans diplôme d'italien, pas de passeport. Et sans passeport, Luis Suarez a perdu sa place au club de Turin.
Merci. Blandine Hugonnet, correspondante Europe 1 en Italie. Nous étions à Rome, mais aussi au Japon, au Brésil ce matin. Votre fenêtre ouverte sur le monde, le réseau des correspondants d'Europe 1 sur la planète. Votre revue de presse internationale, c'est tous les matins, juste avant 7h.
Europe 1.
La météo de Laurent Cabrol, le journal d'Hélène Zellani et le 7-9 de Mathieu Béliard qui démarre, c'est dans un instant sur Europe 1. A tout de suite. Il est 6h57 sur Europe 1. Très bon réveil, très bonne journée. Toute l'équipe du 5-7 revient demain dès 5h pour vous réveiller et vous informer tranquillement. Pour l'heure, c'est Mathieu Béliard qui arrive. Bonjour Mathieu.
Bonjour Sébastien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Europe 1, mercredi 23 septembre 2020. Vous écoutez Le Monde Changer.